Bonsoir et bienvenue dans Radio Cinéma Club, votre émission 100% 7ème art. Retrouvez le collectif The Bloggers Cinéma Club tous les mercredis soirs de 19 à 21h sur ZKM Radio, bien entendu.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Radio Cinéma Club 4ème du nom, le rendez-vous des cinéphiles actifs et des cinéphages maladifs. Après Jenny, Charlotte et Aurélien, je passe moi aussi du métier amusant de chroniqueur à la dure tâche d'animateur. Et pour ceux qui n'auraient pas retenu mon nom, je ne suis pas Frédéric Becbédé. Au programme ce soir, beaucoup de bonne humeur, mais aussi du gore, du glauque, de la blague lourde et un coup de marteau. Et puisqu'il paraît que je suis un jeune insolent, autant commencer avec l'humour lourdingue tout de suite, avec un lancement digne des grosses têtes pour présenter les chroniqueurs en or, enfin en bronze plutôt, qui vont m'accompagner tout au long de ces deux heures. La seule chose qu'il taille aussi bien que ses chroniques, c'est sa barbe. Thomas, bonsoir.
Salut.
Au-delà de la musique des films, il aime deux choses dans la vie, la bière de 33 centilitres et la bière de 50 centilitres.
Et Katy Perry.
Salut Florian.
Salut Valentin.
À la fois cinéphile et mélomane averti, il ne fait aucun doute qu'elle tire son inspiration capillaire aussi bien de Louise Brooks que de Nana Mouskouri. Jenny, bonsoir.
Bonsoir Valentin.
Et enfin nos trois invités. Alors ils sont jeunes, beaux, intelligents, talentueux et prometteurs. Mais ils ont un défaut. Ils ont copié l'idée de sortir un film pour chaque fête du calendrier à la Scala. J'accueille ce soir le collectif No Reason. Bonsoir. Composé donc de Mélodie Scagnoli, Thibaut Franquin et Margot Spindler qui, cette fois-ci, nous lâche pour passer du côté des invités et n'est donc désormais plus chroniqueuse. En tout cas, pas ce soir. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, on va commencer tout de suite avec nos invités, d'ailleurs. Donc, le collectif No Reason. Alors, ça va être très simple. Est-ce que vous pouvez tous les trois présenter assez rapidement, enfin, c'est-à-dire que présenter le collectif et puis à la fois vous-même, en fait, comment vous en êtes arrivé là? Okay, dans l'ordre que vous voulez.
Oui, pas de problème. Thibaut, Valentin, vas-y. Oui, alors je suis Thibaut Franquin, je suis maquilleur effets spéciaux pour le cinéma et je suis membre du collectif No Reason qui existe depuis maintenant le mois de décembre. Donc je fais les maquillages et les effets spéciaux des films qu'on réalise ensemble et je suis aussi réalisateur de certains courts-métrages.
D'accord. Tu as également réalisé un légendaire long-métrage intitulé Bloody Fast Food.
Oui, effectivement, mais il est encore en cours de réalisation.
Ah, on aurait fait l'émission en 2007, on aurait dit la même chose.
Je crois.
D'accord. Mélodie?
Bien, moi, je suis aussi maquilleuse et maquilleuse effets spéciaux pour le collectif. Et j'ai décidé aussi de me lancer dans la réalisation de certains courts-métrages. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Donc, voilà. Et puis voilà.
Margot, alors du coup, on te connaît un peu parce que tu es venue en tant que chroniqueuse aux deux dernières émissions. Et donc, du coup, cette fois-ci, tu viens pour nous parler de No Reason.
Je fais partie de No Reason essentiellement en tant que cadreuse éclairagiste, même si j'ai aussi réalisé un des courts-métrages qu'on a sorti à ce jour. Et voilà, de toute façon, on est tous un peu couteau suisse, on fait tous un peu 15 000 choses en même temps dans les projets qu'on fait, de la pré-prod à la post-production, puisqu'on monte aussi, enfin voilà.
D'accord. Donc, alors le nom de votre collectif est évidemment un renvoi à Quentin Dupieux.
Évidemment.
Non, Valentin, je pense que tu fais complètement erreur. À mon avis, c'est un amalgame de circonstances. Et... Non, c'est évidemment un gros clin d'œil à Robert, de Quentin Dupieux. Je ne sais plus trop comment le nom est arrivé. On avait un peu du mal à trouver un nom. On avait essayé plein de trucs avec Asso dedans ou Prod ou voilà, mais c'était pas terrible. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les courts-métrages qu'on voulait tourner, ils avaient tous aucun rapport, les idées qu'on avait étaient toutes très décousues. Alors on s'est dit, après tout, notre univers, c'est le No Reason. Donc ça s'est venu un peu rapidement, je trouve.
A posteriori, du coup, ça traduit bien le côté complètement gratuit de ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas essayer de chercher loin, il faut prendre ça pour ce que c'est et le vivre comme une expérience sensorielle.
Alors, vous avez sorti combien de courts-métrages jusqu'à maintenant, donc depuis décembre ?
En tout, on en a sorti 5.
Il suffit de suivre les fêtes du calendrier. C'est assez facile.
Et il y a eu Noël, Nouvel An, la Galette des Rois,
la Saint-Valentin
et Carnaval.
Ouais. Donc, il pourra ajouter à ça une autre vidéo qui est sur notre compte YouTube. Qui est en fait une sorte de petit making-of aussi. C'est pas un court-métrage, mais il y a une petite présentation de la soirée de projection de la vidéo de Saint-Valentin.
Est-ce que vous êtes venu présenter un des courts-métrages à la soirée Saint-Valentin de Blogueur Cinéma Club, donc
ouais, d'ailleurs, au merci.
Cinéma Palace et à Metz. Alors en fait, d'après ce que vous venez de dire, en tout cas, donc on comprend en tout cas en voyant les films qu'ils ont tous aucun rapport entre eux. Enfin, il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment à chercher à comprendre, comme tu disais, Margot. Mais on sent qu'il y a une espèce de force commune, en fait, dans les films. C'est-à-dire, quand on les regarde, on sent qu'il y a, quelque chose qui, en fait, est propre à ce groupe, quoi.
C'est beau ce que tu dis.
Non, mais c'est possible qu'il y ait deux choses qui me viennent tout de suite à l'esprit, qui sont les gros points communs des vidéos. C'est que déjà elles correspondent toutes à une fête, donc du coup il y a forcément, quand on la regarde, on sait que la vidéo est mise en ligne le jour d'une fête, et du coup le thème est forcément un peu lié à la fête, et aussi le fait que dedans il y a au moins un trucage ou un effet spécial, donc c'est peut-être ou alors plusieurs, mais il y en a au moins un à chaque fois. Du coup, c'est les seuls points communs, parce que le but peut-être l'humour aussi ou le décalage, mais finalement, à part ça, le but c'est justement de faire des trucs assez différents, de changer de style.
On peut noter aussi l'absence de scénario, l'absence de dialogue.
Oui, c'est ce qu'on retrouve très souvent, mais c'est ça aussi, quoi, qui fait un peu, je pense, la patte, quoi, si je peux dire ça comme ça.
L'absence de dialogue, c'est aussi dû au fait qu'on n'a toujours pas d'ingénieur du son.
On a des dialogues dans la vidéo de...
C'est dû au fait que vos acteurs, tous vos acteurs sont muets, c'est ça, en fait.
La vidéo de Nouvel An, on a quelques dialogues.
Ouais, c'est vrai.
Ils jouent mal, vous ne les faites pas parler, c'est ça.
Les seuls qui, j'avoue, ont des vraies répliques à voix haute, c'est Mélodie et moi, qui avons joué nos propres rôles dans une vidéo. C'est le seul moment où, on a des dialogues de toutes nos vidéos. Mais vu que c'est vrai qu'on se concentre sur le visuel, parce que oui, le son n'est pas... C'est si on fait des effets spéciaux, on fait des maquillages, donc c'est ça qu'on essaie de mettre en avant.
Bah, puis on est plus dans le clip, en fait.
Oui, oui, oui.
Voilà. C'est des formats très courts, on n'a pas trop le choix. On a 5 vidéos en 2 mois, c'est quand même du travail, donc on ne peut pas se permettre de faire des courts-métrages de 20 minutes avec des scénarios très compliqués.
Alors justement, jusqu'à maintenant, donc les 5 vidéos suivent les fêtes du calendrier. Est-ce que c'est un choix pour vraiment suivre une espèce de deadline pour se dire, il faut qu'on soit productif ou...
Aussi.
Ouais, c'est vrai qu'on s'est un petit peu dit ça aussi par moment, c'était que de se fixer une deadline comme ça, ça pouvait nous pousser justement à produire plus de choses, parce que sinon on aurait peut-être tendance à trop laisser traîner et à pas sortir beaucoup de vidéos, mais c'est quand même un rythme très soutenu, du coup on est très très fatigués.
Et ça crée une attente aussi, hein. Les gens attendent, enfin savent qu'il va y avoir une fête un peu commerciale, enfin que tout le monde fait, comme Noël ou la Saint-Valentin, et ils ont envie de voir ce qu'on va faire à cette occasion-là, en fait.
Vous allez faire une vidéo pour le discarder ?
Non.
Pour le quoi ? Pour le quoi ?
C'est la fête des disquaires. C'est comme la Saint-Valentin pour les fleuristes.
Ouais, c'est pas une fête religieuse, ça. Donc, pour ceux qui aiment la musique, on prévoit quand même quelque chose de sympa pour la fête de la musique.
Ah, parfait.
Tu vois, t'es content ?
Oui.
Tu viendras faire la critique de la BO du film.
Avec plaisir.
Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des prochains projets, ou est-ce que c'est top secret, interdit
On peut faire un
même
petit,
un tout petit morceau.
Écoutez, on peut donner le thème. Après tout, je pense que les gens savent quelle est la prochaine fête du calendrier qui arrive incessamment sous peu, puisque c'est la Saint-Patrick. Donc on a décidé de, viser peut-être un petit peu plus haut cette fois.
Viser plus haut, puis oui, partir dans un registre un peu inattendu et qu'on n'a pas encore expérimenté. Ouais.
D'accord. Alors on va écouter un extrait de l'un de vos courts-métrages qui s'appelle Marte di Rosso, donc qui est le court-métrage qui est sorti pour Mardi Gras. C'est un extrait sonore du film, donc on écoute la musique qui a été composée par-dessus et dialogue, si on peut dire ça comme ça. Mais ça se marie très très bien. Donc c'est, enfin, si tu peux nous parler juste un petit peu, ou quelqu'un de vous trois qui peut nous parler un peu du film, de ce court métrage là.
Alors oui, Marte di Rosso, c'est un court métrage qui rend en même temps hommage au cinéma gore italien des années 70. Donc c'est très simple, c'est un hommage à Lucio Fulci, je crois. C'est directement inspiré de L'Enfer des zombies. Le titre, l'ambiance, la musique, on a essayé de se rapprocher de ça. C'est en même temps, parce qu'on aime bien les zombies et parce que les zombies c'est à la mode, on voulait au moins faire un court métrage avec des zombies. Du coup, je sais plus comment c'est venu, ça s'est imposé un petit peu d'un seul coup. On s'est dit, on n'a pas fait ce style-là. Alors si on fait un film de zombies, on veut qu'il ait un look 70s. Donc automatiquement, les musiques des Goblins et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre. Donc voilà, le court-métrage rend hommage à ce style. Et en même temps, ça se passe évidemment le jour de carnaval.
On écoute l'extrait tout de suite. Comment rebondir après ça? Non, je sais pas, tu peux nous parler de la musique? C'est toujours vous avez souvent le même compositeur.
Oui, on travaille beaucoup avec Cédric Harry, qui nous a composé cette musique et qui a composé la musique de Christmas Tree, la vidéo de la Galette des Rois aussi, et qui va nous aider aussi sur le prochain. Et ouais, c'est un gars super qu'on a rencontré il y a pas très longtemps et qui est très très motivé pour un peu tout expérimenter, quoi.
Je trouve c'est super intéressant ce qu'il fait. Il arrive bien à reprendre l'esprit de ce que vous avez envie d'annoncer, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est en même temps le style du film qui est pas toujours très en rapport avec la fête. Et en même temps, la fête elle-même.
Ouais, non, le style du film est volontairement complètement en décalage avec la fête. On essaye de se dire, on fait la fête de Noël. Les gens vont penser, bon, film de Noël, des trucs mignons, des films avec des chiens, ce genre de choses. Et donc, on fait, on va faire un hommage à Cannibal Holocaust. C'est se fait comme ça, en fait. Donc, du coup, c'est logique. C'est logique. Quand on demande à Cédric de s'imprégner d'un univers, etc., on lui dit écoute un peu de musique des Goblins, écoute du Fabio Frizzi, et comme ça, il arrive à nous composer quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut.
D'accord. Une dernière chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, je viens d'oublier, ça y est. C'était ça que je voulais dire. Donc on pourra retrouver, on a déjà donc vu Inside Love, qui est le court métrage que tu as réalisé, Margot, oui. Pour la Saint-Valentin, qui est ultra gore comme le veut la Saint-Valentin, évidemment.
Bah, qui dit Saint-Valentin dit gore, dit violence.
Voilà. On a pu découvrir le court métrage la première fois à la soirée Saint-Valentin de Blogueur Cinéma Club, et certainement dans une soirée qui sera très prochaine, on aura certainement l'occasion d'en voir un nouveau, peut-être plusieurs.
Ouais.
Qui sait. En tout cas, merci beaucoup et longue vie à Nobuzan.
Merci beaucoup. Merci à vous
pour l'invitation.
Alors tout de suite, on passe aux sorties cinéma du 11 mars, donc aujourd'hui. Et on commence, on revient donc du coup avec Margot, qui n'en a pas fini de parler, qui va nous présenter The Voices. On écoute un extrait rapidement de la bande-annonce.
Collègue. Séduisant.
Jerry ?
Ah, Fiona.
Salut.
Ah, Bosco, quelle journée ! Quelle journée ! J'aurais tellement aimé que tu sois là.
Tu l'as baisé, la salope.
Vous arrive-t-il d'entendre des voix ?
Des voix, non. Eh ben ça alors, waouh ! Des fois, je parle à mes animaux pour passer le temps. Mais parfois, c'est eux qui me parlent.
Jerry !
Tu l'es. Et tu découvriras ce que ça fait que de se sentir vraiment vivant.
Alors Ryan Reynolds, Jeanne d'Arc, même combat, on t'écoute.
Ouais, c'est un peu ça. Bon, je vais être assez bref parce que c'est vrai qu'on en avait assez longuement parlé dans l'émission spéciale Gérard May. On avait tous été assez marqués par le film pendant le festival, qui a d'ailleurs gagné le prix du public et aussi le prix spécial du jury à égalité avec Ex Machina. Et donc du coup, le film de Marjan Satrapi met en scène Ryan Reynolds aux prises avec des hallucinations. Il entend son chat et son chien lui parler et en particulier lui conseiller de commettre des meurtres en fait. Donc c'est une comédie horrifique vraiment très très savoureuse et pleine de peps et comme on le disait lors de la dernière émission, qui mêle en fait des registres très différents avec beaucoup d'ingéniosité. C'est vraiment un film très très fun à voir.
On passe un bon moment.
Voilà, c'est ça.
N'est-ce pas,
merci
Valentin,
pour ce moment.
On passe un bon moment. Non, c'est vrai que c'est le feel good movie du moment. Quoi.
Ouais.
C'est un peu ça.
Un feel good movie gore.
Qu'est-ce qui se passe?
On n'est pas tout seul.
Alors, on va donc passer aux autres sorties du 11 mars. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais vous en parler. Apparemment, ça n'avait pas l'air d'intéresser grand monde. Je vais vous parler de Fièvre de Romain Basset. On part tout de suite, ça y est, dans le film d'horreur. On y retourne encore une fois. On va écouter un extrait. You are trying to reach reality. Please hang up now. Jessica, Rose, your grandmother's just passed away. The funeral is next weekend. I would appreciate it if you came.
So, what's it like to be back in the old home?
It's nice. Still studying fantasies with that quack of a boyfriend of yours, darling. Psychophysiology of dreams is not a con, mother. It's a science.
Alors, Fièvre, donc, de Romain Basset, qui est un jeune réalisateur, c'est son premier ou deuxième long métrage, je crois. L'histoire est assez étonnante. C'est l'histoire de Jessica, qui est jouée par Lily Fleur Pointeau, et qui, en fait, mène l'enquête sur le passé de sa famille en se plongeant dans un état léthargique. Elle est clouée au lit à cause d'une fièvre, et donc, du coup, elle va essayer de mener l'enquête à travers ses rêves. C'est un film assez curieux. Il y a une ambiance très très onirique. Enfin, c'est très soigné, quoi. C'est un film très avec un esthétisme qui est clairement revendiqué. C'est assez court, enfin un peu moins de 90 minutes, mais le souci reste quand même dans le scénario qui se perd un peu de temps en temps. En même temps, c'est compréhensible. C'est un jeune réalisateur. C'est un sujet assez difficile à traiter. Enfin, c'est très David Lynch, quoi. Mais c'est beau. Donc, passe un beau moment, encore une fois.
Tu ne l'as pas pris en grippe.
Comment ?
Le réalisateur.
Je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris en grippe. Non, je.
On n'a pas de buzzer là.
Non, on n'a pas de buzzer.
Je me chauffe.
Alors, c'est un film qui sort seulement maintenant, parce que Romain Basset, en fait, il a réalisé ce film en 2012, entre 2011 et 2012, apparemment. Comme quoi, tu vois, Thibaut. Bloody Fast Food a encore de l'espoir. Donc à part l'actrice principale, dont je répète son nom improbable, Lily Fleur Pointeau. Alors Fleur Pointeau, c'est le nom de famille. Hein. Lily Fleur, c'est pas un prénom. Moi, je suis assez étonné, en fait. Mais on retrouve des acteurs assez, encore une fois... Vas-y, ouvre ta bière, tranquillement. On retrouve donc des acteurs assez cultes du cinéma d'horreur français, puisqu'il y a Philippe Naon, infatigable, qui est là tout
il
le temps.
Il
est dans tous les films d'horreur français. Ouais. On ne peut pas faire un film d'horreur français sans lui. Il y a Vernon Dubchev qui a un petit rôle aussi. Et les deux autres rôles principaux, c'est Murray Head, qui est assez étonnant.
Sing and So?
Oui. One Night in Bangkok. Et donc on retrouve Murray Head qui commence, je sais pas, peut-être qu'il avait déjà commencé une carrière d'acteur.
Qui finit enfin sa carrière de chanteur.
Qui finit sa carrière de chanteur apparemment. Et Catriona McColl qu'on retrouve donc dans les films de Lucio Fulci.
Magnifique.
Et voilà, et qui a un super rôle d'ailleurs dedans, je trouve. Alors je l'avais rencontré en été 2012. Catriona McColl, elle m'avait dit en fait qu'elle sortait du tournage du film. Donc c'est un film qui a été fait vraiment avec très peu de moyens, quoi. Le mec s'est démerdé tout seul pour le
pour le sortir, et je trouve que c'est vachement bien parce qu'il a réussi à le sortir en salle alors qu'elle me parlait plutôt d'une sortie directement en DVD parce que c'était très difficile et pas forcément en France. Mais voilà, donc à voir, c'est assez sympa. On passe tout de suite à l'autre film d'horreur de cette semaine, c'est Lazarus Effect de David Gelb.
Est-ce que j'étais morte ? Le cerveau du sujet continue de créer de nouvelles connexions cérébrales. Le sujet montre des signes de confusion.
Il s'est passé quelque chose. Je me transforme.
Et des signes d'agressivité marqués.
Mais qu'est-ce que c'est, bordel ?
Zoé, reviens !
Je veux savoir ce qui est arrivé.
Alors, Lazarus Effect. Comment dire ? C'est un remake un peu inavoué de L'Expérience Interdite. Donc voilà, c'est un groupe de chercheurs qui réussit à ramener les morts à la vie, faire des expériences de mort imminente, tout ça. Les deux acteurs principaux, donc c'est un couple de chercheurs, c'est Marc Duplass et Olivia Wilde. On va parler de Marc Duplass
mais
tout
oui,
à l'heure, on adore
sûr.
Ce gars.
Ah oui.
Et Olivia Wilde, on l'adore aussi. Et d'ailleurs, tous les autres acteurs, il y a Evan Peters, il y a Donald Glover, dont on va encore parler après.
Un rapport avec Danny Glover
Je sais pas, mais il est noir aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Il est mort, Danny Glover.
Il est noir. Il n'est pas mort.
Ah merde.
On s'est mal compris.
C'est parce que j'ai pas de casque.
C'est bien dans le sujet là, Lazarus Effect, du coup.
Voilà. Ah bah oui, effectivement. Mais... Donc non, il était mort quelques secondes, Thomas, à cause de toi, mais non, il est revenu à la vie. Ça s'annonce comme un film assez sympa qui a l'air de jouer plus sur le suspense que sur l'horreur. On demande à voir. Enfin, le casting a l'air assez incroyable. D'ailleurs, les critiques du film sont très très bonnes envers le casting. Et j'avoue que voir Marc Duplass dans un film un peu plus mainstream, ça me tente énormément. Quoi. Et enfin, on passe donc au coup de cœur Blogueur Cinéma Club. Le dernier coup de marteau d'Alix de la Porte.
Non, mon père.
Comment tu t'appelles?
Prépare tes blagues.
Non, c'est Nadia.
Tu as quel âge?
13 ans. Enfin, 14 bientôt.
Je n'ai pas d'enfant.
Il a dit quoi, le médecin?
Il arrête le traitement pour voir comment je me débrouille.
Il arrête tout. On va le voir, le chef.
Il y en a qui acceptent qu'on assiste aux répétitions, mais lui, il va voir personne.
Il n'attend pas 10 ans pour dire à quelqu'un qu'il a un enfant.
Maintenant qu'il est là, t'attends quoi? Qu'il reparte à l'étranger?
Ah, ce cinéma français. On l'aime tellement. Le dernier coup de marteau, c'est le film qui a, je crois, le scénario le plus français possible. Alors, en quelques mots, c'est donc l'histoire d'une mère qui est jouée par Clotilde M ou Esm, je ne sais jamais comment on dit, qui a un cancer, qui est pauvre, qui vit seule avec son fils dans un bungalow dans le sud de la France. Et le fils, donc, n'a jamais connu son père et il le retrouve parce que son père est chef d'orchestre. Et il revient à Montpellier, pour rencontrer son fils. Et donc voilà, c'est comment dire, est-ce qu'on peut vraiment faire plus français que ça? Je ne sais pas si c'est vraiment possible. Et c'est quand même très étonnant parce que c'est un film qui joue vachement bien contre en fait les codes du drame français chiant tel que ça s'annonçait en fait. C'est très très bien filmé.
Du coup, c'est pas chiant.
Alors non, mais c'est pas chiant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a du rythme, si tu veux. Il y a vraiment du rythme et on tombe pas dans l'espèce de fatalisme, tu sais, qu'il y a dans le cinéma français, quoi. Toujours essayer de tirer les larmes et on évite tout le temps ça. Et je trouve que le parti pris est vraiment très réussi. Je t'écoute. Non, tu voulais dire un truc, Thomas? Non. Sinon, t'es parti encore pour 10 minutes.
C'est ça.
Non, mais c'est un film qui est vraiment à voir parce que c'est déjà rien que pour ses paysages. Enfin, je sais vraiment pas où aller. C'est donc du côté de Montpellier.
Montpellier.
Quoi, Montpellier, ouais. Mais c'est des paysages naturels qui.
Pas pas.
Qui sont. Non, c'est pas la même chose.
Mais tu es pas là, toi.
Non, c'est les paysages sont assez extraordinaires et vachement bien mis en valeur. Alors il y a une espèce de spontanéité en fait dans la façon dont elle place la caméra, qui donne énormément de rythme en fait. Et du coup le film se regarde très très bien. Alors justement voilà, c'est ça quoi, ça cherche jamais à verser dans le sentimentalisme, mais encore moins dans l'espèce de film qui s'adresse à une élite quoi, en faisant passer ça pour un drame un peu grand public quoi. Et ce qu'il faut savoir également, petite actu du blog, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'interview donc d'Alix Delaporte, la réalisatrice du film, est en ligne sur The Blogger Cinéma Club.
Wouhou !
Et tout de suite, donc, le nouvel interlude musical. Alors, c'est un choix évidemment de nos amis de No Reason, puisqu'on va écouter un extrait de la BO de Rubber. Quelqu'un peut m'en dire un petit mot ?
Sur Rubber ?
Sur la musique, sur le choix, sur le pourquoi du comment. No Reason.
No Reason.
No Reason, voilà.
Alors on écoute.
Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses et d'autres non. Voilà.
Et on part tout de suite de tout ce qui n'a aucune raison à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, puisque Thomas va nous parler, donc va commencer cette chronique sur les DVD qui sortent cette semaine avec un film de Michael Mann, le premier film de Michael Mann, qui sort le 12 mars chez Wildside, c'est Le Solitaire. On écoute un extrait du film.
Demandez qui on est. Vous avez un enfant qui attend et avec vos conneries, vous le privez de nous et vous nous privez de lui. Vous êtes qui pour décider ça ?
Ne faites pas de scandale. Nos critères d'adoption.
Vos critères d'adoption, ils sont tellement enfoncés dans votre cul qu'ils voient même pas la lumière du jour.
Franck, je t'en prie, on s'en va.
J'ai un renseignement de première main pour filer, chère madame. J'ai grandi à l'orphelinat et ce genre d'endroit, c'est mortel. Un gosse qu'on enferme entre quatre foutus murs, après un moment, il dit au mur : ma vie t'appartient. Vous êtes nés où, vous ? Dans les beaux quartiers ?
Oui.
Voilà, voilà.
Donc, Le Solitaire, donc rien à voir avec un film sur un homme seul qui pourrait se coincer le frein. C'est le premier film de Michael Mann avec James Caan, Tuesday Weld, Robert Prosky, Willie Nelson et James Belushi, entre autres. Donc, ça raconte l'histoire d'un braqueur qui rêve d'une famille et d'une vie normale et qui décide de tenter un dernier coup avant de se ranger. Donc, comme dit, c'est le premier film de Michael Mann. Donc, le sujet était plutôt casse-gueule, car c'est déjà vu un million de fois au cinéma. Mais Michael Mann arrive à nous amener finalement où il veut et suivre ce dur à cuire qui a une certaine éthique. Donc, pour lui, c'est uniquement diamant et cash et pas de particulier, pas de drogue. C'est un vrai plaisir. Donc, finalement, malgré tous les sauts d'humeur qu'il peut avoir ou son impulsivité, on est plein d'empathie pour ce gars qui trimballe ses rêves de famille, de maison, de voiture sur un photocollage comme un gamin pourrait trimballer des images de catalogue le mois avant Noël. Et bien que ça puisse paraître puéril, finalement, ça colle parfaitement au désir que pourrait avoir quelqu'un qui aurait été privé longtemps de liberté parce qu'il a passé un nombre incalculable d'années en prison. Donc, la plupart des scènes qui sont touchantes, c'est les scènes où il est avec sa femme ou sa petite amie, en tout cas au début. Notamment son premier rendez-vous où on est comme l'actrice, on passe d'un sentiment pour lui qui est plutôt négatif. Il arrive quand même à l'enlever quasiment de force et à l'acheter sur son siège passager pour l'emmener manger. Un sentiment d'empathie, voire d'amour, lorsqu'il se livre totalement lors d'une longue scène de dialogue qui est très très bien filmée. Donc les seconds rôles sont très bons, notamment Belushi qui est dans son premier rôle, qui est le frère à John Belushi qui était dans les...
Le frère de Monica Belushi ?
Non, même pas. Le frère de John Belushi qui était dans les Blues Brothers. Denis Farina qui est un ancien flic qui dans le film joue un truand et John Santucci qui lui est un ancien vrai truand dans la vie et qui joue un flic ripou dans le film. Et surtout je tenais à mentionner l'acteur Prosky qui a 50 ans, c'est son premier rôle au cinéma sur le grand écran. Il est absolument fabuleux, donc il a une tête de papy super gentil et qui arrive à transformer finalement à volonté un visage noir d'homme sans foi ni loi. Et je tenais vraiment à souligner cet acteur-là parce qu'il jouait le rôle de Nick, donc c'est le projectionniste dans une des meilleures comédies d'action de tous les temps, c'est la Section Hero de McTiernan. Donc c'est quand même, le film est de 81, c'est quand même une époque où les acteurs, ils ont vraiment une gueule cassée, ça fait vraiment du bien de voir des gars qui n'ont pas une gueule de catalogue, quoi. C'est vraiment cool. Donc, dans le film, tout sonne plus vrai que vrai. Je ne me suis pas vraiment beaucoup renseigné, mais le peu que j'ai pu lire, c'est que le bar qui appartient à James Caan dans le film est un véritable bar de gangsters à Chicago. Et la plupart des décors sont réels, il n'y a pas vraiment de studio là-dedans. C'est vraiment, vraiment bon. Et de plus, les figurants étaient aussi des clients du bar et donc des gens de la pègre. Techniquement, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est super bien shooté. La photo qui froide est très urbaine. Ça colle parfaitement à l'ambiance. Et certaines scènes sont vraiment splendides, notamment le plan d'introduction qui montre l'atmosphère nocturne et humide de Chicago, ou les deux scènes de braquage qui sont vraiment magnifiques. On comprend, c'est beau et en plus c'est très bien filmé, on comprend exactement le rôle de chacun et tout ce que font les personnages est très très clair. Enfin, c'est que ça soit dans l'écriture ou dans la technique, ça ne fait vraiment, vraiment pas premier film. C'est une vraie prouesse. Bah, c'est... Bah, moi qui ne suis pas un grand, grand fan de Michael Mann d'habitude, ça m'a vraiment posé sur les fesses. C'était grand. Donc, pour les gens que ça peut rebuter, les films de fin 70, début 80, ça n'a pas beaucoup, beaucoup vieilli, donc ça a forcément une patine d'époque. Mais ça, c'est pas trop daté, si ce n'est le look et les poils sur les épaules de James Caan. C'est vrai que maintenant, on n'en voit plus beaucoup.
Donc, on ne voit plus beaucoup de James Caan.
On voit même plus beaucoup de James Caan. Même la musique de Vangelis, qui peut être datée aussi, colle parfaitement à l'image et on ne verrait pas autre chose à la place une fois qu'on a vu le film. Enfin, pour moi, ça, c'était la première fois que je le voyais. C'est une grande, grande découverte. C'est un grand film néo-noir. Et c'est devenu instantanément mon film favori du réalisateur. C'est à voir absolument, je pense. Notamment que le coffret Blu-ray qui va sortir chez Wildside, donc le 11 mars, ça n'a pas de collection particulière, mais c'est des gros, gros coffrets en carton avec un livre de plus de 200 pages dedans. Ça vaut largement ses 30€. Donc, courez vite le 11 mars à la Fnac, à Leclerc ou à la Face Cachée.
On attendra qu'on nous le revende et qu'on puisse le proposer à 4€. Voilà.
Moi, je l'ai acheté. Enfin, je voulais l'acheter, mais en fait, je me suis trompé. Le Solitaire, c'est un film avec Belmondo. Du coup, je me suis tapé un truc naze.
J'ai regardé un film. Top Badabou,
tu plus, t'es fait. Et en plus, il a même pas de poils sur les épaules, Belmondo.
Mais il se tient pareil quand même. Il gonfle le torse, il rentre le ventre.
Ouais, mais il tremble un peu plus, lui. Tu vois.
À cette époque-là aussi.
Bon, ça commence, tu sais, ça commence tôt. Ouais, hein.
T'as raison.
Les micros n'étaient pas déjà.
Mais c'est vrai, en fait, j'attendais le lancement. Mais en fait, c'est moi qui fais le lancement.
J'ai fini.
Le
toi.
11 mars. Le 11 mars, chez Carlotta, il y a un super coffret. Il faut absolument qu'on en parle parce que c'est le truc qui a absolument à voir. C'est le coffret Nagisa Oshima. Je prononce correctement les japonais.
Hi.
Nagisa Oshima. On va écouter la bande-annonce du petit garçon, l'un des 9 films du coffret, tout de suite.
お姉ちゃん帰れ来たらいかんお姉ちゃん帰れお前の来るところじゃないいかん僕だけしか行けんところやき他の誰も行けんところやき
Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument acheter ce coffret ? C'est simple, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Alors Nagisa Oshima, vous le connaissez tous parce qu'il a réalisé L'Empire des Sens. Qui a animé toutes vos plus soirées les plus hautes en rentrant du guest. Alors il y a...
Placement de produit. Je me disais qu'on n'en avait pas encore parlé.
Ça va arriver.
En tout cas, je suis capable de. Combien de paye pour placer leur nom
Alors, il me paye. Alors, il me paye extrêmement cher. C'est-à-dire qu'il m'offre une Heineken là-bas.
C'est au moins 3 mois de salaire.
Je te jure qu'il faut bosser au moins 10 ans pour se payer une Heineken là-bas. Alors non, bon, pour en revenir à des choses un peu plus. Ah bah tiens, Margot d'ailleurs, qui a du mal à ouvrir sa boute, sa canette. Pour en revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, alors Nagisa Oshima, on le sait assez peu finalement, parce qu'on connaît quasiment que ce film de lui et également Furio, dont je vais rapidement toucher un mot tout à l'heure. Mais c'est en fait le pape, enfin en tout cas le père de la nouvelle vague japonaise, c'est un des cinéastes majeurs de la nouvelle vague japonaise, donc fin années 50, début années 60, comme en France quoi. Donc on trouve dans le coffret qui sort chez Carlotta, j'ai oublié de le dire, il y a 9 films qui sont répartis sur 6 disques. Donc, c'est en général des films assez courts, c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve des fois 2 films sur le même disque, Blu-ray et DVD dans le même coffret, donc, et qui permet de découvrir un peu cet univers. Alors des films assez bruts, c'est des films qui sont très, sans fioritures, c'est toujours des histoires très, très dramatiques, mais c'est toujours très fort, en tout cas c'est très bien filmé, c'est un peu C'est-à-dire que ça s'apparente un peu à la nouvelle vague française, mais ça a quelque chose de différent dans le fait que c'est beaucoup plus dur, en tout cas, dans les sujets, dans le choix des sujets. Et donc on retrouve un peu comme notre nouvelle vague à nous, des acteurs non professionnels qui jouent. Dedans, il y a beaucoup d'enfants, j'ai remarqué ça. On trouve beaucoup d'enfants. C'est bizarre pour un type qui a fait un film pour adultes par la suite, beaucoup d'enfants. Voilà.
Tu vas en
venir. Alors non, mais ça sera hors antenne, mais faut que je vous raconte un truc.
Je veux une
passion que j'ai en secret, mais bon, bref. Le point route avec Valérie Maurice tout de suite. voilà, donc c'est absolument à voir. Il y a plein de bonus qui sont très intéressants, qui donc reviennent sur les films. Comme toujours, en fait, c'est Carlotta, c'est du très bon boulot. Quoi. Les masters sont super. Le son est super, enfin c'est vraiment excellent. Et donc oui, alors à noter, donc deux titres en particulier qu'il faut avoir vu plus que les autres, c'est Le Petit Garçon dont on vient d'écouter un extrait et La Pendaison, que Thomas a beaucoup envie de voir apparemment.
J'attends que tu me ramènes le DVD.
Ok, il n'y a pas de problème, tu me le rendras quand même. Non. Je me fais souvent couillonner.
Oui.
En plus donc, du coffret qui sort chez Carlotta, les films du coffret, en tout cas pas tous, mais je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ressortent ou qui sortent pour la première fois en salle, donc dans des versions remasterisées 4K, enfin, tous ces trucs qu'on voit maintenant, quoi. trucs de jeunes.
16/9.
Wow.
5.1.
Je sais plus, c'est pas compatible avec ma télé.
J'ai une excuse.
Mais donc non, pour les gens qui n'ont pas envie de mettre 50 ou 60 euros dans le coffret, ils peuvent aussi très très bien donner leur argent à Michel Imbert et aller le voir en salle.
Est-ce qu'on peut en conclure que personne ne peut en vouloir à Carlotta?
Ben, oulala.
Ouais, bon, c'était très, j'aurais dû éviter
très
ça.
Réfléchi.
Faut pas éviter, vous y allez.
Vous en avez bien profité, c'était la dernière apparition de Margot derrière un micro
je
de
sors.
Ce Radio Cinéma Club. Il y a une espèce de d'émulation en ce moment, j'ai l'impression, autour de Negisa Oshima, puisqu'il y a Furio qui ressort au cinéma cette semaine. Alors Thomas, lui, qui est fan qui veut à tout prix nous faire des ciné vieux et il faut qu'on parle des ressorties. Alors il y a Furio qui ressort, pareil, dans une version remasterisée 4K, mais alors qui n'a rien à voir avec Carlotta. C'est ça qui est assez étrange, c'est que ça tombe en même temps, mais c'est deux compagnies complètement différentes et qui n'ont rien à voir.
C'est avec David Bowie, celui-là.
C'est avec David Bowie. D'ailleurs, Expo Bowie, tout ça, enfin, tout se rejoint, quoi. Hein. On est très.
Alignement de planète.
Mais ça doit être ça. Encore un coup des francs-maçons.
Des raéliens.
Ils nous gouvernent.
Donc voilà, en même temps que. Donc vous pouvez aller voir plein du coup de films de Nagisa Oshima, puisque à part les films de Carlotta qui sortent en salle, il y a également Furio qui, je pense, sera d'ailleurs beaucoup mieux distribué certainement.
Mais Valentin, est-ce qu'il ressort en 3D au moins?
Pour la 3D. Pour la 3D, je pense qu'il faudra attendre un peu.
C'est des Japonais sans 3D, sans lunettes.
Ouais. Il y a des paliers, quoi. Il y a Top Gun, il y a Titanic, tu vois. Après, il faut qu'on arrive à bout de souffle 3D.
Alors, Titanic en 3D, c'était vachement bien, et Top Gun en 3D.
Le dernier coup de marteau en 3D.
Voilà. Tu te le prends dans la gueule. Et bon, sur ces bonnes paroles, on va passer aux sorties ciné de la semaine prochaine, les sorties du 18 mars, mercredi 18 mars. Et on retrouve Margot qui va nous parler du nouveau Tim Burton, Big Eyes, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
Pourquoi toujours ces grands yeux écarquillés?
C'est à travers les yeux que j'exprime mes émotions. Les yeux sont les fenêtres de l'âme.
Vous allez adorer.
Pourquoi des yeux si immenses?
Les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est pour ça que je les fais aussi grands. Jamais je les ai peints autrement.
Pourquoi est-ce que tu mens?
Pense à la belle vie qui nous attend.
Tout ça va tellement vite. Lequel de vous est l'artiste?
C'est moi.
On t'écoute.
Oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà.
On te regarde avec nos grands yeux.
Oui, ouvrez grand les yeux. Parce que, donc voilà, Big Eyes de Tim Burton qui va sortir, qui met en scène Amy Adams, Christoph Waltz et Jason Schwartzman, que moi j'adore toujours voir, peu importe le film. Donc il faut juste savoir que Amy Adams a remporté pour ce film le Golden Globe de meilleure actrice dans une comédie. Et j'ai l'impression, donc sans avoir vu le film, malheureusement, qu'elle l'a sûrement pas volé. Donc c'est le deuxième biopic de la carrière de Tim Burton après Ed Wood.
Et Sleepy Hollow. Pardon.
Oui, si c'est une question de point de vue, effectivement.
Et Mars Attacks.
Un peu moins tout de suite. Et donc, ça raconte l'histoire d'un peintre, Walter Keane, qui, en fait, dans les années 50-60, a plus ou moins orchestré un des plus gros canulars de l'histoire de l'art, dans le sens où, pendant plusieurs années, il a fait croire que le travail de sa femme, le travail pictural de sa femme, était le sien. Elle peignait des tableaux représentant des enfants apeurés avec des yeux immenses. Et qui ont eu énormément de succès, en fait, qui ont été déclinés en plein de produits dérivés, etc., déjà à cette époque-là. Et pendant des années et des années, on a cru que c'était les travaux de son mari. Donc c'est évidemment une histoire qui est dans le monde de la peinture, mais qui a été assez récurrente, comme le couple Fitzgerald et ce genre de choses. Mais là, ce qui est assez drôle, c'est que Tim Burton a choisi de raconter l'histoire de peinture qui évoque vraiment son travail à lui et ses personnages aux orbites très creuses et très écarquillées. Donc moi j'avoue que je suis assez enthousiaste parce que ça a l'air frais en fait. Déjà il y a un casting qui est assez inattendu je trouve pour un film de Tim Burton. C'est dans une esthétique qu'on lui connaît pas trop. Enfin voilà, moi je suis quand même impatiente de voir. Et Thibaut va nous parler de Amy Adams maintenant.
Non, j'avoue, ça fait plaisir qu'elle soit dans le film de Tim Burton. Oui, j'aime beaucoup cette actrice, en effet.
Pourquoi ?
J'aime bien Christoph Waltz aussi, donc...
Tu vas être content, on va parler de Kristen Stewart maintenant. On va te refaire intervenir, t'inquiète pas, tu pourras crier ton amour. Puisqu'on va parler de Still Alice, le film pour lequel Julianne Moore a eu l'Oscar de la meilleure actrice. On écoute un extrait et on en parle après.
J'ai la maladie d'Alzheimer. À déclenchement précoce.
Oh mon Dieu.
Je vois les mots suspendus devant mes yeux, mais je n'arrive pas à les attraper. Et je ne sais plus qui je suis, ni ce que je vais perdre encore. Stéthoscope, millénium, hérisson. J'aimerais te voir faire des études.
T'as pas le droit de te servir de ta situation pour me faire faire tes quatre volontés.
Mais pourquoi j'aurais pas le droit, hein?
C'est pas juste, c'est...
Y'a rien qui m'oblige à être juste. Je suis ta mère.
Bah bon.
Ah ça y est, le final a été dévoilé. Alors j'avais préparé en fait une chronique, j'avais essayé de la retenir sur ce film sur la maladie d'Alzheimer, mais je l'ai complètement oublié.
Chapeau.
Applaudissez-moi. Alors. Non, vraiment.
Non, mais, t'as pas un buzzer juste, hein, la façon dont les gens rient aux blagues dans cette émission.
Vous faites le bidomètre dans l'émission.
Vous êtes complètement malades, tous autant que vous êtes. On va quand même parler d'un film. Là, on est en train de parler d'un film qui fait pleurer, quoi. Enfin, stop, c'est
pardon.
Fini. Voilà. Maintenant, mettez-vous tous en mode, on est triste. Je vais vous faire ça très, très solennellement. Donc Julianne Moore joue une mère de famille, Alice Holland. Non, arrêtez de pleurer, c'est bon, on n'est pas... Non.
Elle a autant de grains de beauté sur les épaules que James Caan des poils.
Oui.
Chouette.
Ouais. Mais c'est pas grave, enfin, elle est plus sexy que James Caan. Donc c'est Alice Holland qui est une mère de famille, on va quand même y arriver. Et en fait, comment dire, sa vie, ses relations familiales sont un peu remises en cause... quand on lui diagnostique un Alzheimer précoce. J'ai envie de rire, je sais pas pourquoi, parce que c'est super triste. C'est un peu comme quand on a envie de rire à un enterrement, quoi, parler de ce film qui est ultra triste. C'est un film qui est très très beau, qui est réalisé par, j'ai oublié de le mentionner, qui est réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland. J'aurais pas pu choisir des noms encore plus imprononçables. qui sont deux réalisateurs qui travaillent très souvent ensemble, qui ont beaucoup bossé pour des émissions de télé, je crois, American Idol et ce genre de truc, mais qui ont réalisé plusieurs longs métrages et courts métrages. Et il y en a un que j'avais vu il y a quelques années, que je trouvais très très bien, qui s'appelle Echo Park LA, sur la vie d'une jeune latina qui en fait s'échappe de sa famille pour aller vivre avec avec un groupe d'homo. Et je trouvais que ce film était super super beau. Et là, on est encore une fois dans l'espèce de mélodrame déchirant, quoi. Alors c'est comment dire, on rentre moins facilement. Arrêtez de faire du bruit avec vos micros. On s'entend plus parler quand même. C'est un film, voilà. C'est fait de toute façon pour les Oscars. C'est Julianne Moore qui porte le film. C'est un film à Oscar de toute façon. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. C'est très beau, c'est bien filmé, c'est déchirant, c'est lancinant. Il se passe des trucs autour de cette table. Un jour, je vais arriver à les comprendre, mais là, pour l'instant, c'est pas vraiment le moment.
Thomas, arrête.
Ah, pardon. Et donc encore comme Margot pour le Golden Globe de Amy Adams, Julianne Moore mérite donc son Oscar, puisque c'est elle qui fait tout le film.
Elle mérite tous les prix du monde.
Mais Julianne Moore mérite tout le temps des Oscars, mais elle en a jamais.
Et elle en a, est-ce qu'elle est au-dessus de ça?
Bah, elle est peut-être au-dessus de ça, mais c'est étonnant que ce soit. Enfin, elle est très très bien dans le film, mais c'est pas son meilleur rôle, quoi. Et elle a eu l'Oscar pour celui-là. Bon, c'est un peu comme quand on donne un Oscar à Scorsese pour Hugo Cabret, quoi. Alors que l'année d'avant.
Il a reçu un Oscar pour Hugo Cabret?
Oscar du meilleur film, ouais.
Non.
Ouais.
Oh la vache.
C'est n'importe quoi. Enfin.
Non, c'est pas vrai.
Mais non,
il a eu
l'Oscar pour ça.
Il a
jamais
eu
l'Oscar,
Scorsese. Il a eu une nomination, mais il a pas eu le meilleur film. Non, pas cette année-là.
Ah ouais. Et s'il a une meilleure film, c'est Les Affranchis, je crois.
Meilleur réalisateur, ou un truc comme
2000,
ça.
2000,
oh. Internet, je crois. Ouais, qui a Google.
Allez-y, allez-y.
Mais je crois que Scorsese, c'est Les Affranchis.
Oui, non, je t'écoute.
Juste pour revenir sur
Les Affranchis.
Oui, parce que c'est ça le sujet, au final.
En fait,
le truc sur les Irlandais.
Gangs of New York.
Non,
l'autre. Non, mais arrêtez de.
Les Irréductibles. Ah non,
2011, les Oscars.
On peut pas avoir 1000 conversations.
Est-ce que.
Le remake d'Infernal Affair, le film chinois, c'est pour ça qu'il a l'Oscar. Je sais plus.
Les Affranchis.
Non. J'arrête pas de dire Les Affranchis.
Vas-y, viens, Jenny, on discute.
Ah,
taxi, discutons.
Hein,
Valentin, reprends ton rôle de meneur et calme un peu les esprits autour de cette table.
Les infiltrés.
Oui, mais tu le dis en anglais, je suis pas bilingue, moi.
Est-ce qu'on peut avoir un peu d'ordre dans cette émission, s'il vous plaît?
Moi, je voulais juste savoir si Julianne Moore avait été nominée pour Maps to the Stars.
Je sais qu'elle a eu le prix à Cannes.
Elle a eu le prix à Cannes.
Ouais, mais aux Oscars.
Je crois pas qu'aux Oscars.
Merci.
C'est pour quoi? Ah, on va savoir.
Pour Les Infiltrés. L'Oscar en 2007.
Il a dit Les Affranchis.
Il a dit Les Affranchis, oui.
Les Affranchis.
C'est pas parce que c'est l'invité que tu vois le
mec au dessus.
Je me suis perturbé.
Je suis marrant.
Voilà. Il n'y a pas joué Wikipédia de Martin Scorsese.
On peut terminer cette chronique de Stylalis. Non, bah donc on va terminer en fait cette chronique en parlant rapidement des acteurs. Comme ça, Thibaut, tu pourras rebondir sur la femme de ta vie. Puisque le casting est assez exceptionnel, il y a quand même Alec Baldwin. Et il faut dire quand même qu'on voit jamais assez Alec Baldwin.
Par contre, il y a des Baldwin dans tous les films.
Par contre, on voit trop les autres Baldwin. C'est ça le problème, quoi. Les mauvais, du coup. Les Daniel Baldwin.
Parce que les chauves gagnent, c'est
Adam Baldwin.
Les Adam Baldwin, les Michael. Enfin, je sais pas,
on
peut choisir n'importe quel prénom de la langue anglaise.
Ouais, ils sont 7 frères Baldwin, plus un cousin.
Comme ça, quoi. Ils sont trop, de toute façon. Trop de Baldwin.
C'est une armée.
Les mecs, ils peuvent,
saloperie de parvenus.
Ils peuvent créer un état à eux, tu sais. Donc, ouais, il y a Alec Baldwin, du coup, qu'on voit pas assez, qui est très très bien dedans. Il y a Kristen Stewart et Kate Bosworth. Donc, ah non, mais je t'écoute. T'as l'air tellement ravi.
Ça a l'air effectivement un très bon film, oui, en effet. Non, mais c'est surtout.
On peut pas juger la qualité du film par rapport à la qualité du physique des actrices.
Si, moi j'ai aimé Lucy.
Oui, non, mais toi, tu aimes Inherent Vice juste parce qu'il y a des jambes incroyablement sexy sur la fiche.
Mais je l'ai pas vu encore. Mais oui, je pense que je l'aime.
Okay. Non, j'avoue, je trouve que Kristen Stewart est jolie, mais quand même, je trouve que c'est aussi une bonne actrice, donc ça donne quand même aussi envie de voir le film.
Non, c'est vrai, ça donne. Enfin, en tout cas, voilà, le film est très bien. Peut-être pas non plus. C'est pas ce qu'il faut regarder, en tout cas, les soirs de pluie où on est triste. Hein, mais c'est très, très bien. Et on retourne du coup du côté de la musique en écoutant un petit morceau. C'est une special request de notre ami
Marine,
absent Marine.
Wing, point, wing, shwing, wing. Pardon, Marie, je...
Tu massacres son nom.
Oui.
C'est pas grave, on sait qu'elle nous
écoute. She's a firework.
Voilà. Non, mais arrêtez de toujours revenir à ça.
Ah, ça fait mal, hein.
Oui, ça fait mal.
Fallait venir.
Mais c'est bon, j'ai pas que Katy Perry dans ma vie, arrêtez un peu.
Non, t'as fait quoi le soir-là?
Ben,
au pire, vous pouvez parler de ça pendant l'extrait.
Oui, c'est vrai. Donc on va écouter donc elle est... Donc Marine, notre amie rédactrice du blog, qui ne peut pas être ici car elle habite à Lyon. Et qui nous a demandé...
Faire un duplex, c'est pas bien.
On devrait faire un Skype.
Avec Skype,
Et qui nous a demandé de mettre un morceau d'un film qui est pas du tout, enfin qui est plus d'actualité en tout cas, mais c'est pas grave. C'est son anniversaire il y a pas très longtemps, on peut lui faire ce plaisir.
Oui, notre amour pour elle est toujours d'actualité.
Ouh.
C'est beau, hein. T'as vu Marine, t'as entendu
Brigitte Lahaye.
Et donc le morceau, c'est de la BO de Frank, le film avec Michael Fassbender qui est sorti le mois dernier. Et le morceau s'appelle I Love You All. Continuer de planer avec Thomas qui va nous parler de la sortie DVD de White Bird de Greg Araki qui sort le 17 mars.
Chez Backfilm.
Chez Backfilm. Et on, d'ailleurs, on va écouter un extrait du, de la bande-annonce de White Bird. Mom? One day she was there, cleaning, making dinner. And the next? She's gone. Hundreds of wives go missing every week. Are you saying there's nothing we can do? I recommend you alert your friends, your neighbors. Tell them to be on the lookout. Don't you wonder where she is? I mean, she's got to be somewhere, right? I'm worried about you, Kat. This is too much to deal with on your own. Do you miss her? No, not really.
Donc White Bird, le dernier film de Greg Araki, donc à qui on doit Totally Fucked Up, The Doom Generation ou encore Mysterious Skin. Donc c'est avec Shailene Woodley qu'on a déjà vu dans The Descendant ou les films pour adolescentes divergentes. Eva Green.
Diverge, c'est énorme.
C'est pas moi. Christopher Meloni ou Shiloh Fernandez.
Ça y est, ça commence.
Donc c'est tiré d'un livre de Laura Kachiche et donc on suit une adolescente de 17 ans qui
la sœur d'Abdelatif Kachiche.
Celle-là
même. Désolé, je vais te pourrir ta chronique.
Non mais hein, tu fais bien, j'arrête pas depuis tout à l'heure. Donc on suit une adolescente de 17 ans qui alors qu'elle est en train de se découvrir voit sa mère disparaître soudainement sans laisser de traces. Donc 3 ans après Kaboom qui traitait de l'adolescence des années 2000. Comme sa trilogie de l'Apocalypse, donc Doom Generation, Totally Fucked Up et Nowhere pouvaient traiter de l'adolescence des années 90, Greg Araki revient avec un Voodoo Knit. Mais donc ça peut troubler, mais c'est pas un Voodoo Knit traditionnel, car celui-ci finalement met de côté.
Un quoi ?
Un Voodoo Knit. J'ai un accent anglais à couper au couteau.
Reste au courant, s'il te plaît, Sman.
Tu n'as jamais vu les films de...
Qui est le Fred Hitchcock ?
C'est un film d'énigme, finalement.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est un Cluedo, en gros. La...
C'était
mon accent.
Non, mais c'était la prononciation.
J'ai pas fait le A, moi.
J'ai pas fait le C pour les codes.
C'est slasher, quoi.
Oui, bah, si on prend autant de raccourcis, finalement.
Donc, c'est pas un film à énigme traditionnel. Car celui-ci met de côté la partie enquête, vraiment un bon moment dans le film pour traiter, ben, comme souvent chez Araki, de l'adolescence. Mais pour une fois, il est pas, c'est pas super. Ben, le film se passe fin 80, mais c'est pas daté car ça pourrait être intergénérationnel. Ça parle vraiment du rapport avec les adultes ou à l'explosion de la famille modèle dans une banlieue. Pavillonnaire américaine. Donc on suit la construction d'une jeune fille pendant qu'en parallèle on suit la déconstruction de sa mère en flashback. D'ailleurs la mère est jouée par Eva Green qui a un rôle fabuleux. Elle joue donc cette femme qui se décompose et elle est vraiment vraiment bonne. Elle prouve qu'elle peut être vraiment meilleure actrice que dans le genre de rôle où elle peut se perdre comme Sin City 2 par exemple.
Mais la Green, elle est bonne.
Ouais, elle est bonne, mais en général, elle choisit quand même mal ses films, je trouve.
Non, elle est bonne actrice.
Tu trouves ?
Bon, ok, elle est bonne.
Perfect Sense.
Elle a de gros
Perfect
yeux.
Perfect Sense, voilà. C'était pas si mal. Bon, moi, j'ai pas super. Mais bon, voilà, c'est effectivement, ça rentre pas dans le cadre des blockbusters que je pouvais citer, mais en tout cas, Perfect Sense, c'était. On voyait au moins qu'elle avait un certain talent. C'est pas 300, quoi. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que faut quand même garder le suspense parce que c'est un film qui tourne quand même sur le suspense. Je vais parler de la BO. La BO est atmosphérique. C'est beaucoup de groupes new wave mélancoliques, notamment New Order ou les Cocteau Twins. Ça soutient à merveille la mise en image qui est plutôt sobre pour du Araki, qui est plutôt habitué à des trucs très pop et très colorés. Et ça, la musique aide à faire peser le poids et les questionnements des adolescents sur le spectateur. D'ailleurs, l'ambiance musicale était vraiment, vraiment importante pour Araki, car le livre se passe quelques années avant fin 80, et lui a choisi dans son scénario de repousser la date de l'intrigue, donc à 88, et la deuxième partie se passe en 91, je crois. C'est uniquement pour la bande-son. Et il a bien fait, parce que sur fond de disco, ça aurait été vraiment merdique, je pense. Donc on se laisse bien porter par cet ado qui évolue dans sa banlieue avec une légèreté malgré le sujet du film. On retrouve quand même les obsessions du réalisateur pour la sexualité ou la déconstruction de la famille, mais sans tout le côté un peu what the fuck qui a généralement dans son cinéma. Le casting est parfait, donc j'ai déjà parlé d'Eva Green, mais tous les autres sont au niveau, donc que ça soit Shailene Woodley que je n'avais jamais vue aussi belle finalement et aussi bonne dans son rôle d'actrice.
Décidément.
N'est-ce pas ?
Si vous n'avez pas envie de voir ce film après ça.
Christopher Meloni, qui je pense qu'on connaît vachement plus pour la série.
Thibaut est choqué.
Doom Doom.
New York Unité Spéciale.
Oz aussi.
Bones ?
Oz, la série. OZ.
Ah, je ne regarde pas trop de séries, tu sais. Ah, désolé.
Dommage, c'était sa meilleure.
en tout cas, c'est la première fois que je le vois aussi bon. Il fait le rôle d'un père qui est complètement perdu et bené. Et. Tout le long, il est très bien. Ou encore Chilo Fernandez en petit ami rebelle et un peu con. Donc tout le monde est bon. Et le petit détail rigolo, et c'est sûrement un clin d'œil pour un film de femme disparue, mais il y a un tout petit rôle qui est tenu par Cheryl Lee, qui est la Laura Palmer de Twin Peaks. Donc au final, c'est un Rocky plus sombre et moins trash que sa filmographie, que le reste de sa filmographie. C'est beaucoup plus, beaucoup plus accessible. Et c'est vraiment une petite pépite à voir, quoi. Et puis voilà.
D'accord. Très très bien. Très sombre. Dommage parce que Greg Araki, c'est quelqu'un qui se marre beaucoup. C'est bien connu que Araki rit.
Oh là là.
Je l'ai préparé pendant toute ta chronique.
J'ai vu le train en pleine tête.
Tu l'as vu? C'était pas mal. Hein.
Allez,
Frères Lumière, on aurait pu faire un film sur mes blagues. Quoi.
Les auditeurs peuvent lire la meilleure blague de l'émission.
Mais également la pire.
Mais également la pire, oui.
Ça va être difficile.
Fais ta transition là.
Ça va être difficile de faire une transition.
Sans transition.
Merde. Sans transition, alors de toute façon, on va continuer avec Thomas, mais qui sera épaulé par Jenny pour nous parler d'une comédie horrifique, Housebound, film australien de Gerard Johnstone qui sort le 20 mars en DVD. On écoute un extrait.
Tu veux le lancer ?
Things I can't explain. There was a ghost in this house, Kylie.
What are you going to do against a hostile spirit?
I'm going to smash it in the face.
When you put an overactive mind in an inactive environment, there's bound to be complications.
I need a counseling session. I just need to get out of this house.
Donc, Housebound, un film néo-zélandais de Gerard Johnstone avec Morgana O'Reilly, Rima Te Waita, Glenn Paul Waru. Donc, et d'autres qui ont des noms à couper au couteau. Donc, comme tous les Néo-Zélandais.
C'est une équipe de rugby qui joue dans le film.
Ben non, ils ne sont pas tous gros et black. Donc, ça raconte finalement l'histoire d'une cambrioleuse qui est assignée à résidence chez sa mère pour purger sa peine parce qu'elle s'est fait arrêter. Et il se passe des trucs un peu chelous dans cette maison. Donc,
des bruits.
Elle se dit qu'elle est hantée. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un dans le studio ?
Ça, c'était Ouija.
Il faut pas qu'on bouge. Faut pas qu'on bouge la table, sinon.
Les pieds vont tomber.
Moi, personnellement, j'attendais vraiment de voir ce film car il jouit finalement d'une belle réputation. Il a gagné quelques prix en festival et on présentait presque son réalisateur comme le nouveau Peter Jackson. Donc c'est un mélange des genres. Donc le film il souhaite nous amener dans l'horreur, la comédie et le thriller, mais hélas aucun des aspects n'est vraiment réussi. Ça fait pas peur et c'est pas angoissant, mais alors pas du tout. C'est pas très drôle, donc on lâche bien quelques rictus sur des situations ou des dialogues, mais bon, moi j'ai pas ri à grande voix en tout cas. Et la partie thriller est complètement loupée, c'est convenu et en plus c'est extrêmement long. Donc ça reste un film à twist, donc il nous amène quand même là où il veut, savoir que je me suis quand même fait avoir la plupart des fois. Mais bon, finalement, c'est sans plus. Techniquement, c'est pas trop mal shooté, c'est plutôt beau. Les décors, par contre, sont vraiment, vraiment chouettes. Ça m'a rappelé un peu des maisons glauques quand j'étais petit dans les Vosges, que j'allais chez mes
parents. T'as failli dire close quand même, hein. On était près de la maison
des close. Des maisons glosses.
Mais attention.
Je fais gaffe. Mais donc, la maison de ma tante était glauque, mais elle n'était pas close, hélas.
Ta mère, c'est la même personne. C'est
pour ça. Dans les Vosges, non, c'est mon père, c'est mon grand-père.
Dans les Vosges, c'est pas pareil. Hein. C'est 0,5 entre deux habitants.
Mais faites gaffe.
Valentin, il faut arrêter.
T'as l'air bien renseigné.
Il faut arrêter.
Arrêter quoi ?
Arrêter de parler.
Ah, d'accord.
Parce qu'on critique les Vosgiens, mais au final, il y en a quand même des biens.
Ah bah oui, t'attendais qu'on remonte sur les biens.
Où j'en étais? Les acteurs font plutôt bien le job. Il n'y a pas grand chose à dire, sauf peut-être l'agent de probation qui est bien qu'un peu rigolo. L'agent de probation qui est fan de fantômes et qui va aider l'héroïne, je ne l'ai pas trouvé super crédible. Donc la galerie de personnages atypiques est sympa à voir évoluer, donc sauf l'héroïne qui, bien qu'adulte, agit envers sa mère comme une peste d'adolescence, et finalement on n'a aucune empathie pour elle et on a presque pitié de sa mère qui va devoir se la coltiner pendant plusieurs mois. Donc c'est un film que j'aurais sûrement beaucoup beaucoup plus apprécié si je l'avais vu en festival ou dans une salle bondée où il y a des éclats de rire avec un rire communicatif. Parce que là, dans mon canapé, tout tombait plutôt à plat. Donc, c'est une petite chose. C'est pas déplaisant et les qualités masquent pas forcément les défauts. Donc, si vous avez toujours envie de le voir, ça sort le 20 mars chez Optimal.
Et c'est déjà sorti en DVD avec le.
Avec Mad Movies. Avec
un Mad Movies, ouais.
Ah, ouais. Ils sont souvent en avance. Mm-hmm.
Moi, j'ai bien aimé Housebound. Je m'attendais pas à voir un film d'horreur, peut-être que c'était ça la différence, quoi. Donc du coup, toutes les parties du début où on essaye de nous faire croire que c'est un fantôme ou je sais pas quoi, moi, j'attendais le ressort comique derrière. Du coup, ça m'a pas paru aussi lourd qu'à toi. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Après, c'est pas un grand film, c'est clair, mais
c'était un petit film sympa agréable à regarder un dimanche après-midi.
Ouais, et puis assez d'accord avec toi, les twists sont bien vus.
Ils sont amenés d'une manière un peu pataude. C'est vrai que si on est un peu intelligent ou si on le regarde pas un dimanche après-midi, je pense qu'on peut les voir venir.
Peut-être.
Par contre, moi, je me suis fait, comme dit, c'était un dimanche après-midi. Et je me suis fait avoir.
Ouais, ouais, moi aussi, ça
c'est
bien marché.
C'est une version comédie de Malveillance.
Malveillance, rappelle-moi. Malveillance.
Le film de Ramé Balaguerro avec.
Ah, un petit peu. Ouais.
Ce mec-là, ce concierge qui s'immisce dans la vie des gens. L'affiche du film est très belle aussi. Moi, c'est l'affiche qui m'a donné envie de voir le film. Avec une affiche avec une patine un peu vintage. Comme
l'affiche
ça.
Est très très ouais, jolie. Ouais. Ouais.
Portrait de famille un peu déglingos comme ça.
Enfin, moi, ce qui m'énerve un peu dans le genre là, c'est qu'on a l'impression, donc après, j'ai peut-être pas une culture cinématographique de la Nouvelle-Zélande énorme, mais on a l'impression que tous les réalisateurs qui arrivent à sortir de chez eux, ils font de la comédie horrifique. Ils sont à chaque fois qu'ils sortent. Ils sont en général récompensés en festival. Il y en a qui étaient plutôt justifiés, comme Black Sheep par exemple. Mais, en tout cas à mon sens. Et on les compare à chaque fois à Peter Jackson, alors qu'il
n'y a pas de point de comparaison.
Alors qu'il n'y a pas vraiment de point de comparaison.
Je ne sais pas si le cinéma néo-zélandais est un cinéma jeune, parce que je ne connais pas tant que ça. Mais...
Après, je n'ai pas vu le film qui passait à Gérard Ney, qui apparemment est très très drôle.
C'est toujours pareil.
Mais pareil, comédie horrifique. Mais c'est drôle au moins.
Est-ce qu'il est gore au moins celui-là?
Non.
De quoi? Housebound?
Absolument.
Il y a un peu d'hémoglobine, mais bon, c'est pas ça.
Oui, c'est pas gore.
C'est pas du Peter Jackson.
Non. Non, non, c'est moins drôle, moins gore.
Non, alors.
Est-ce qu'il y a un gorille géant? Eh ben, merci de nous avoir à moitié donné envie du coup de voir le film. Non mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande c'est un peu assez étrange de voir que les seuls films qui sortent un peu c'est des comédies horrifiques. On parle de What We Do in the Shadows normalement.
Enfin, en même temps c'est tout petit, il y a peut-être 30 000 habitants, c'est comme s'il y avait un cinéma dans les Vosges quoi.
On revient toujours aux Vosges.
Mes Vosges, chérie.
What maman, c'est Vosges.
Et on retourne du côté de la musique, puisque quand on se retrouvera tout à l'heure après le morceau, on va commencer à vous parler des séries télé qui recommencent en ce moment. Et on va tout de suite parler de Community. Et on va écouter avant ça le légendaire morceau de Community.
Pardon, non,
qu'est-ce qui se passe?
Rien, il se passe absolument rien. Continue. Petit
on va écouter donc le morceau Getting Rid of Britta, qui est donc le morceau de haine de Britta envers son. Enfin, pardon, de l'ex de Britta envers Britta, donc l'héroïne de la série. On écoute ça tout de suite, featuring Pierce, le meilleur personnage de la série. On écoute ça tout de suite et on se retrouve après.
Saying goodbye to Britta was the hardest thing to do. But when someone's a bitch and a liar, there ain't nothing left to woo. I'm getting rid of Britta, she's gotta go. I'm getting rid of the bee,
she's an all good bee.
I'm getting rid of Britta, I'm getting rid of the bee,
she's a GDB.
Take it, Pierce. What? Hell yes. I didn't know when I saw her blonde hair that she could ever be that way. So tiny and small, she seemed to have it all, but she made me say, bitch, hey, that ain't cool. I'm getting rid of Britta, I'm getting rid of the bee,
she's an all good bee.
I'm getting rid of Britta, she's gotta go. I'm getting rid of the bee,
she's a GDB.
Come on, one more time for me, Pierce. Ha! Say it ain't so. It isn't like I would ever hit her, but I would sell her to the highest bidder. She bummed me out, she bruised my soul. She lied to my heart, she left me less than whole. I'm getting rid of Britta, I'm getting rid of the bee,
she's an all good bee.
I'm getting rid of Britta, it's not healthy, man. I'm getting rid of the bee,
she's a GDB.
Come on, Pierce, I just... Britta's a bee, not a C. Britta's a bee. I'm just speaking the truth here. Britta's a bee.
On va tous le faire l'un après l'autre. Et donc, Jenny, tu vas nous parler de la saison 6 de Community qui recommence. On est tous très, très, très heureux.
On est au moins 4 autour de cette table. Je pensais être ravie par la nouvelle. Alors oui, c'est le Community saison 6. Alors après l'annulation de la série par NBC, à cause de résultats d'audience sans cesse sur le déclin depuis la 4e saison. Alors vous savez, Dan Harmon, le créateur de la série, s'est fait virer à la saison 4. Il a été rembauché à la saison 5. Qui était pas terrible. Enfin, je pense que vous direz peut-être après ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pas tant aimé que ça. Ouais. Et donc, Yahoo a annoncé en juin 2014 qu'il relançait la production de la série avec une 6e saison. Donc, il s'agit de 13 épisodes de 20 minutes qui seront diffusés à partir du 17 mars sur la plateforme de VOD Yahoo Screen, au rythme d'un épisode par semaine. Alors, évidemment, on ne présente plus Community, la seule méta-série du paysage mondial audiovisuel. Mais quoi de neuf dans ce petit miracle d'Internet? Alors, on va bien retrouver Joe McHale dans le rôle de Jeff Winger, Gillian Jacobs dans celui de Britta Perry, la réputation n'est plus à faire après le morceau qu'on vient d'écouter, Danny Pudi dans le rôle du roi des nerds Abed Nadir, Alison Brie dans celui de la délicieuse Annie Adroy Edison. Mais on a de nouveau perdu un personnage au passage.
Danny Glover.
Non. Alors, comme le soulignait brillamment l'excellent blog Intervista, attention, lèche. Sur son compte Instagram, il y a peu. Eh oui. One by one, they all just fade away.
Ah oui.
Phrase prémonitoire qui clôt le générique de la série depuis sa création. Et voilà. Après Chevy Chase et Donald Glover, parti lui s'occuper de sa carrière musicale, c'est au tour de Yvette Nicole Brown, Saint Shirley, de ne pas rejoindre le casting le jour de la rentrée. Alors pour des raisons personnelles, a-t-elle dit. On n'en saura pas plus. Alors heureusement, on nous laisse le Dean Pelton, Jim Rash, et le professeur Chang,
qui reste principal. Dans cette saison. Cependant, je peux déjà vous dire que malheureusement, Starburns, Magnitude, Buzz Aiki ne seront pas, ne seront pas de l'aventure. Buzz Aiki, lui, est parti reprendre son rôle de, enfin, Jonathan Banks est parti reprendre son rôle de Mike dans Better Call Saul. Donc on ne le verra plus. Quid du pitch, pas grand-chose en fait. J'ai pas vu beaucoup d'infos passer, mis à part les rôles des petits nouveaux qui vont être récurrents, rien à filtrer. Donc on nous parle d'une certaine Paget Brewster qui jouait dans Esprit criminel, je ne connais pas, qui elle jouera le rôle d'une consultante engagée pour remettre de l'ordre dans Greendale, ça promet. Et Keith David qui jouait dans Enlisted.
Qui jouait dans Invasion Los Angeles.
D'accord, ok.
De John Carpenter.
Quel film ? John Carpenter fait que des bons films, de toute façon. Sauf The War, peut-être. Mais bon, à part.
Et lui jouera le rôle d'un scientifique à la retraite qui va reprendre ses études. Voilà, on n'a pas d'autres infos qui ont filtré sur ce qui se passera à Green Day sur cette
info. Il paraît que, Donald Glover revient.
Alors, non.
Ah ouais,
il revient caméo. Ponctuellement, il y a un caméo.
Il y a un caméo. Alors, moi j'ai d'autres infos sur.
Il n'a pas vraiment quitté la série, il est juste parti faire son tour du monde sur
et
le bateau.
Je t'en parlerai après, ne me spoil pas tout le bordel. Bon, alors voilà, on espère que cette saison 5, qui a vu la réintégration d'Alan Harmon à la série, n'était qu'un tour de chauffe et que la 6 nous donnera des épisodes atteignant la qualité des saisons 2 ou 3 ou au moins de la 1. De toute façon, avec le créateur aux commandes, on peut penser qu'on est loin du naufrage de la saison 4. Alors, on nous promet un épisode de Paintball. Alors, c'est la moindre des choses. Voilà. Mais aussi un film sur la même thématique. Alors, une sixième saison et un film, c'était le slogan des fans de Greendale après l'annulation de la série. Ouais, c'est ça. Et leur rêve se verra donc réalisé puisque Sony Pictures a confirmé le projet de film. Dan Harmon, lui, espère le casting d'origine pour celui-ci.
Je vais mourir d'amour.
Et il se dit déjà que Troy sera de retour pour une septième saison, qui serait censée être la dernière. En tout cas, Dan Harmon a annoncé qu'il n'avait pas écrit la saison 6 de Community comme la dernière. Voilà, on verra bien si c'est vrai tout ça ou pas.
Ginny, t'es la reine du scoop, quoi. J'apprends plein de trucs.
Yahoo Info.
Trop cool.
Alors, la plus géniale et la plus référencée des séries n'a a priori pas fini de se réinventer. Rendez-vous le 17 mars devant vos écrans pour vérifier ça.
Bah on espère que ça va être très très bien. Là, il y a trop d'infos. J'en perds mes mots. J'essaie d'imaginer juste les seins d'Alison Brie pour essayer de me concentrer. Mais
cool.
Oui,
et tu retrouves tes mots.
Là, je retrouve mes mots. Anis Boobs.
Comme tu as parlé d'esprit criminel et qu'on a un peu de temps, finalement, je vais faire une petite minute, moi. Et comme tu as parlé aussi d'esprit criminel.
D'accord.
Ça fait plaisir.
On t'écoute. Il faut faire un petit jingle pour la minute.
La minute, moi. T'as un jingle? Ah, tu crains. Bon. Tant pis. Donc, il y a 5 ou 6 mois, j'étais à Los Angeles.
Pour tourner
un esprit criminel à Los Angeles.
J'étais dans un musée avec ma copine et là on a rencontré la décoratrice chef d'esprit criminel qui nous a proposé on a un peu sympathisé. Elle nous a proposé de nous ramener à l'hôtel parce qu'on était à pied. Et là, en arrivant dans sa bagnole, t'avais des sacs partout avec des trucs. Et là, elle nous dit « Bah, je suis décoratrice pour Esprit criminel ». Et avant de nous ramener dans notre hôtel, on a été faire deux boutiques avec elle, des boutiques à West Hollywood où elle achetait des accessoires donc pour Esprit criminel. Et là, c'était une super bonne expérience. Voilà, la minute, moi. C'était super cool,
Thomas
c'était
drôle. On retrouvera dans 2 semaines dans The Shopping Radio Cinéma Club. Le mec, il arrive, il se la pète. Enfin, il n'y a pas de problème.
J'étais à LA faire du shopping.
Mais je suis allé faire les soldes aux États-Unis.
D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'elle nous dit, parce qu'elle nous a dit, que donc maintenant, elle travaille uniquement pour Esprit criminel, que c'était vachement mieux que de travailler pour le cinéma parce que le budget était quasi illimité et qu'elle faisait tout ce qu'elle veut. Et quand je lui ai demandé pour quel film elle avait déjà travaillé, elle m'a sorti que des nanars dont le pic de dents.
Alors attention,
le pic de dents.
On connaît des gens qui sont donc c'est le film préféré.
Donc,
est-ce que c'est des gens qui sont allés à LA qui
je
ont
ne sais
rencontré
pas, il faut parler du pic de dents avec énormément de précautions, sinon je vais me faire défoncer la gueule au magasin.
Non mais ce qui est drôle, c'est justement qu'elle met en avant tous ces films finalement qui ont peut-être fait du box office mais qui n'ont pas trop marché, alors que quand
Enfin, en rentrant à l'hôtel, j'ai tout de suite été sur IMDb. Tu vois qu'elle a travaillé pour Fincher, pour d'autres réalisateurs qui sont très très bons sur des très grands films. Elle n'en a pas du tout fait mention.
Donc, okay.
Pour l'anecdote. C'est la fin de la minute, moi.
Non, elle est modeste.
Que, peut-être que juste, on ne sait pas que Fincher a réalisé Le Pic de Dante. C'est peut-être ça.
Ah, c'est ça.
Alan Smithy.
Il n'a pas voulu donner son nom. Oh ben on va continuer. Donc on va clore cette minute. Moi, merci Thomas. C'était très très enrichissant. On va continuer. Ça va, je plaisante. On va continuer avec une série dont toujours Jenny avec épaulée de son bien-aimé Florian, qui vont nous parler d'une série dont Flo d'ailleurs t'avais mentionné à la toute première émission.
Oui. Adolf Hitler, blague voilà. Sur les juifs, et ça fait une audience de fou.
Mais voilà. Comment vous dire
cette info?
Ah, oui. On peut pas faire deux fois la même blague.
Je sais, vous arrêtez de me ruiner, quoi, sérieusement.
Vas-y, lance.
Donc oui, c'est la série en question, c'est Man Seeking Woman. Donc c'est la première saison. Elle est pas terminée d'ailleurs, cette première saison.
Non, elle est toujours en cours.
Elle est toujours en cours. On écoute donc un extrait d'un épisode et puis on passe à vous.
About a young lady.
Oh, Mom, I don't want to talk about it.
Here, have some iced tea. I want information about this new girl you're seeing. Now.
Mom?
But first, how are you in the chair? Are you comfortable there?
Huh? I'm better than Hitler.
Somebody's jealous.
Mais on vous écoute. Pardon. On a eu une absence pendant la bande-annonce.
C'est le pic de Dante.
Non, parce qu'en fait, Benjamin, qui est là et qui prend des photos, nous racontait comment il avait rencontré Keanu Reeves un jour de shopping à Chicago. On vous écoute.
Ok. Man Seeking Woman. Alors, effectivement, on avait déjà touché un petit mot lors de la première émission. Et j'avais vraiment envie de vous en reparler parce que depuis, j'ai vu plusieurs épisodes et je trouve que c'est vraiment très très bien fait et assez rare. Ces derniers temps, comme genre de série. Donc voilà, depuis le 14 janvier 2015, donc c'est tout frais, a débarqué sur FXX, qui est donc la petite sœur de FX, une chaîne d'Afox. Ils n'ont pas trouvé plus sympa comme nom.
J'attends FXXX.
Voilà, exactement.
Parce que
grande sœur de FX.
La grande tante.
La
MILF.
MILF
XXX.
Voilà, merci. Donc, première saison de Man Seeking Woman, c'est l'œuvre de Simon Rich, qui est un ancien du Saturday Night Live. Et les 10 épisodes de cette nouvelle production sont inspirés d'un recueil de nouvelles qui s'appelle The Last Girlfriend on Earth, qu'il a lui-même écrit, donc le même mec, Simon Rich. Moi, je le connais pas perso, mais il a l'air très drôle.
Il l'a jamais rencontré aux États-Unis.
Une nuit de pleine lune sur Rodeo Drive. Non,
la vie est quand même vachement meilleure que là-bas.
Ça va te suivre, ça, mais pendant des années.
En revenant à la série, on suit les péripéties de Josh Greenberg, qui est interprété par Jay Baruchel, que vous avez pu voir dans Robocop ou dans This is the End. Et donc, ce héros est un intérimaire un peu timide de 27 ans qui essaye de se caser. Donc, entre drague, rendez-vous, rencontre, rupture, coup d'un soir, tous les poncifs de la recherche du grand amour, ou du moins des relations amoureuses entre hommes et femmes, sont passés en revue dans la série. Alors, vous allez me dire... Pourquoi regarder Man Seeking Woman plutôt que, je sais pas, les vacances de l'amour?
Bon, c'est un peu. Ah, il y a des balles, hein.
Non, mais, ben, voilà. Alors, Man Seeking Woman, c'est au moins aussi drôle que les vacances de l'amour, mais en plus, c'est inventif.
En plus, c'est bien joué.
Les vacances de l'amour ou Man Seeking Woman?
Ouais. Pour dire que les vacances de l'amour sont pas inventives, faut jamais avoir vu des vacances de l'amour.
Ne me cherche pas, parce que depuis ce que t'as dit sur le pic dedans, tu penses que tu peux avoir une patois au-dessus de la tête, quoi. Demain, l'oncle Tony vient te couper un orteil. J'en étais où? Oui, donc c'est inventif. Voilà. En tout cas, ce qui me concerne, j'ai rarement vu un show télé qui pousse l'absurde aussi loin, en tout cas depuis longtemps. Pour faire simple, on va dire qu'en plus d'être complètement surréaliste, l'écriture est surtout littérale. C'est-à-dire que les angoisses de ce jeune Josh, aller parler à une meuf ou pas, la rappeler ou pas, coucher ou pas, tout ça, c'est matérialisé à l'écran de manière assez théâtrale. Alors, par exemple, on a un véritable conseil de guerre pour envoyer un texto qui se réunit, vraiment, c'est ce qui se passe. Un monstre en guise de rancard à l'aveugle, un mariage qui se passe vraiment en enfer, un procès pour savoir s'il couchait avec son ex, s'est trompé ou pas, voilà, ce genre de choses.
Et Adolf Hitler.
Adolf Hitler, oui, aussi. Il fallait suivre.
Jamais assez.
Pour ça.
Jamais.
Bon, en tout cas, c'est vraiment pas facile de décrire l'univers de la série et son mode de fonctionnement. J'ai voulu en parler sur thebloggercinemaclub.com plusieurs fois et j'ai jamais trouvé le bon angle d'attaque. Mais ce soir, magie de la radio, on a l'occasion d'interviewer un des acteurs de la série. Ce qui devrait se révéler beaucoup plus parlant en fait
qu'une, bon coin, Thomas,
qu'une longue chronique.
J'ai pas rencontré
des stars. J'ai l'acteur, moi,
nous
sur le plateau.
Si okay, okay.
Alors, il s'agit de Monsieur Tanaka, qui est ici présent avec nous dans les locaux de ZKM ce soir.
Tanaka.
Voilà. Bon, bonsoir, Monsieur Tanaka. Alors, vous apparaissez dans le 5e épisode de cette première saison de Man Seeking Woman. Vous y interprétez votre propre rôle. D'ailleurs, c'est Tanaka-san, je crois. Hein. Vous êtes ressortissant japonais, n'est-ce pas ?
Tanaka.
C'est un Pokémon, en fait. C'est un Pokémon.
Tanaka.
Ouais, évidemment. Hein. Mais parlons un peu de ce rôle, si vous le voulez bien. Donc, vous jouez Tanaka, qui est le meilleur ami de Whitney, la nouvelle petite amie parfaite de Josh, le héros.
Tanaka.
Vous êtes de passage à New York, et vous n'y êtes pas exactement accueilli à bras ouverts par Josh. C'est bien ça ?
Tanaka.
Oui, justement, à ce propos. Vous comprenez que votre prestation scénique ait pu choquer les téléspectateurs, quand même ?
Tanaka.
Enfin, j'ai... Vous êtes gentil, mais admettez tout de même, Tanaka-san, que éjaculer comme ça dans la main du protagoniste principal, c'était une entrée en matière quelque peu, comment dire.
Tanaka.
S'il vous plaît, arrêtez.
Tanaka.
Il faudra qu'on mette des caméras pour la
Tanaka.
Ah, effectivement, ça passe bien sur FX.
Tanaka.
Le shot.
Tanaka.
Donc il y a une mosaïque.
Ouais, c'est ça. J'entends parfaitement ce que vous dites, mais je dois avouer que je comprends la réaction de Josh quand même. Je veux dire, laisser sa magnifique petite amie en compagnie d'un monstre pénis, tout droit sorti d'un film japonais. Vieux copain ou pas, c'est un peu une idée qui pourrait rebuter bon nombre de jeunes hommes, non ?
Tanaka.
Ah, attention, pas de spoiler, s'il vous plaît.
Tanaka.
Enfin, je ne sais pas si vos nombreux tentacules à tête de gland ont rapport avec tout ça, mais je pense qu'on peut, bien entendu, saluer votre performance. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir dans la série ?
Tanaka.
Ah, c'est bien dommage. Bon, je vous remercie néanmoins de nous avoir accordé un peu de temps, Tanaka-san.
Tanaka.
Arrêtez de vous occuper à ma
jambe. Tanaka.
Voilà, c'est gentil. Merci.
Tanaka.
Si vous venez de prendre l'antenne maintenant, c'est complètement ridicule. Je vous excuse platement. Pour les autres, je peux que très, très chaudement vous recommander le visionnage de cette première saison de Man Seeking Woman, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemble ce fameux Tanaka-san à l'écran.
Tanaka.
Sinon, pour découvrir l'univers complètement barré de Simon Rich. Entre situation ubuesque et personnage hautement improbable, il y a quelques francs moments de rigolade à l'intérieur.
Tanaka.
Voilà, confirmé. Voilà. Dernier épisode sera diffusé le 18 mars et une deuxième saison a déjà été commandée par FXX.
Tanaka.
C'était trop bien.
Moi, ça m'étonne en fait.
C'était trop cool.
Quand Flo Tanaka nous en avait parlé à la première émission, le première chose que j'ai fait en entrant, c'était j'ai regardé le premier épisode. Et je suis assez. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut pas raconter, quoi. C'est tellement hors du commun. Enfin, je veux dire, c'est encore plus irracontable que les Monty Python, quoi. C'est assez improbable. Ouais, c'est vraiment l'absurde poussé à l'extrême, mais c'est dingue de voir à quel point ça peut aller loin dans l'absurde, quoi.
La série en elle-même est pas forcément intéressante, mais si tu regardes le premier épisode, tu vas avoir envie de regarder le deuxième pour voir quelle idée saugrenue l'idée du mariage, le dernier épisode en date, c'était pas un épisode extrêmement drôle, mais l'idée est super quand on les voit voyager jusqu'en enfer. C'est complètement con, mais voilà,
ce qui est étonnant, c'est que c'est adapté d'un bouquin, quoi.
Oui, qu'est-ce que c'est quoi.
Quand on ouvre ce livre, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Est-ce
des pénis qui te sortent des pages.
Je suis assez étonné. En tout cas, merci, j'espère que ça va vous donner envie de la voir, parce que c'est assez unique. Et on va maintenant passer à notre dernière série, qui a repris il y a quelques jours. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Ça va être... Ouh, superbe générique imité par Marco.
Ah, merci.
C'est House of Cards saison 3. Pas de spoiler ce soir, je vous le promets.
Ça risque pas, j'ai jamais vu cette série.
Ah, donc tu sais pas que non. À la fin. Non. Non. Et donc on va en parler après l'extrait sonore de cette saison 3 qui arrive tout de suite. You want to know what takes real courage? Holding it all together when the stakes are this high.
We're murderers, Francis.
We're survivors.
Alors, House of Cards saison 3, le grand débat donc, pendant l'extrait sonore, c'est qui a vu, je vais la poser maintenant une bonne fois pour toutes, qui a vu la saison 2 Qui regarde cette série et qui a vu la saison 2
J'ai vu que la saison 1.
Ah ouais.
T'as vu quoi?
Que la saison 1.
Merde. Ça va être difficile du coup de
parler. Non mais vas-y, spoil.
Tu ne spoiles rien.
Tu ne spoiles rien à Hiroshima.
C'est ce que je voulais faire.
Bah voilà, ils l'ont très bien imité la fin de la saison 2. Mais non, mais enfin, comment dire, ça, c'est impossible quoi. Je suis désolé, tu vas devoir te boucher les oreilles.
J'imagine qu'à la fin de la saison 2, il devient ce qu'on attend.
Ouais.
Qu'il devient.
Ouais.
Voilà. C'est une réponse exacte. Tu remportes donc un bretzel.
Ouais.
Et tu as droit à une autre minute, moi, pour plus tard.
Ah, mais voilà, j'ai plus rien à raconter.
Donc, House of Cards, la saison 3, donc, qui a commencé le 20... qu'est-ce que je raconte ? Le 27 février, sur Netflix. Ce nouveau moyen de voir des séries gratuitement.
Non, pas gratuitement. Oui.
Quand j'avais Netflix, il n'y avait pas House of Cards.
Parce que tu ne sais pas bien l'utiliser.
Donc, tu sais comment on l'a gratuitement ?
Hein ? Je peux pas te dire à l'antenne.
Bah, ça nous ferait de l'audience.
Non, bah, donc je vais vous faire une minute, moi. non, je l'ai. Mais non, malheureusement, non, c'est pas gratuit.
Comment regarder des séries
gratuitement votre pop-up. Vous êtes en train d'écouter le podcast là et vous venez de vous voir une pop-up qui vient de s'ouvrir et j'espère que ça va vous donner une
Netflix gratuitement. Félicitations, vous êtes le millième auditeur.
Salut, c'est
comment agrandir ton petit.
Vous avez gagné un iPhone.
The Pirate Radio Club.
Donc cette saison 3 commence donc effectivement quand Frank Underwood, incarné par le légendairement génial Kevin Spacey, devient donc ce qu'on attend qu'il devient, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est président des États-Unis d'Amérique. Oh.
Je le savais, putain.
Voilà, tu vois.
Ça sert à rien que je regarde la saison 2.
Non, c'est nul en plus.
T'as un 13 épisodes juste pour ça.
Et donc, c'est 13 nouveaux épisodes, donc de 50 minutes chacun. On a toujours donc David Fincher qui est derrière. Là, c'est toujours très beau, c'est toujours très bien filmé, c'est toujours très très tendu. Le premier épisode qui commence déjà avec un espèce de cliffhanger improbable. Enfin, pour ceux qui ont vu du coup la fin de la saison 2, en dehors de ça, hein, mais pour ceux qui ont vu la fin de la saison 2. Vont être assez étonnés dès les premières secondes de la série.
Est-ce qu'on peut parler de. C'est pas du spoiler de dire que.
De dire ce qui s'est passé à la fin de la saison 2.
Non,
qu'il
mais de dire
que
au début de cette saison 3, il y a tout un coup un. Pendant quelques minutes, en tout cas, un soulagement. Enfin, moi, c'est
oui,
moi ce que ça
oui,
m'a fait.
C'est ça. C'est quelque chose qui te. Bah, mais c'est House of Cards, donc ça te soulage,
oui,
mais en
mais
même
voilà,
temps,
mais
tu
mais
sais
après,
que ça va te détruire.
Tu regrettes immédiatement ensuite, voilà. C'est
forcément,
ça.
Ouais. Mais donc voilà, c'est difficile d'en parler parce que c'est la série à pas spoiler et malheureusement on peut pas en parler sans spoiler. Mais non, pour tout ça pour dire que ça reste toujours dans le même esprit, c'est excellent. Enfin, je trouve que Robin White est encore presque mieux que dans la 2.
Ah ouais.
Ouais. Mais je sais pas où t'en es exactement, hein, mais
j'ai vu que le premier épisode en fait.
D'accord. Mais tu vas voir, elle est incroyable. Elle est...
Mais déjà dès le début, on sent que en fait. Ils ne vont pas s'arrêter. Enfin,
il n'y a pas de.
Y a jamais ils ont un appétit qui est trop dévorant.
Ils ont les yeux
ils peuvent
plus gros
pas.
Que le ventre, comme dans le film de Tim Burton.
Ouais.
Voilà.
C'était un peu nul, donc, mais c'est vrai qu'on peut dire ça comme ça.
Ouais. Bah oui. En même temps, est-ce qu'on fait des blagues pas nulles ici ? Non.
Non.
Voilà. Et ben.
Kate Mara est toujours bien dedans.
Kate Mara est toujours morte dedans.
Il y a des gens. Bon,
merde. Oh, désolé.
Oh, c'est énorme.
Je viens de spoiler doublement Thomas. Je suis désolé. Non, mais... on a confondu avec Kate Bosworth. On parlait tout
à l'heure. Vous allez me punir longtemps
avec
pour la minute
Kate...
moi.
Ouais, en mais fait maintenant il n'y a plus aucun intérêt.
Qui est Kate Mara?
C'est la sœur de
Kate Mara.
Qui joue dans de magnifiques
films. Mais regarde cette série
sans des Templiers.
Si tu veux, je peux raconter la fois où j'ai rencontré Julien Courbet pour te sortir de cette...
Ah, si j'ai droit à une deuxième minute, moi. Alors,
tu as aussi rencontré Julien Courbet?
Ça y est, ça y est. Allez, j'ai rencontré Julien Le Maire. Je peux répondre.
Ah, oh. Ah, c'est plus intéressant, Julien Le Maire.
Mais Julien Courbet, il était pour...
Il est toujours dans la série.
Et Courbet... Non, mais faut arrêter. Je peux pas tout spoiler à Thomas.
Donc il est mort.
Non, t'as vu la saison 1.
Julien Lepers.
Oui, il est mort à la fin de la saison 1. Non. Julien Lepers, non.
Non, il joue dans
Julien Courbet.
Julien Lepers.
Julien Courbet cérébralement, je pense.
Julien Lepers, il te posera une question quand il mourra pour savoir si vraiment il est mort ou pas.
J'aurai le temps de la bombe.
Il m'a donné une photo de cassé pour m'amener des Vosges.
Mais je crois qu'il faut passer...
Je crois qu'on va couper court à cette conversation sur pas du tout House of Cards et plutôt vous laisser regarder la série parce qu'elle vaut vraiment le coup. Mais on va passer à quelque chose de très... intéressant puisque
le
Jenny
House of Cards Mosellan.
Je suis en train de voir le titre de la rubrique suivante dans le déroulé. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça donne envie. En tout cas.
C'est simple. C'est comme Flo l'a très bien résumé. C'est le House of Cards Mosellan, une guerre de sexe, de pouvoir et de
et de tickets de.
En fait, tout simplement.
Cinéma.
Simplement, Jenny va nous parler de l'actualité locale. En nous parlant des Dents de la Mer 3D qui sont passés dans notre petit cinéma préféré de la région, j'ai bien nommé La Scala de Thionville.
Oui, voilà, TB2C a été gracieusement invité par nos amis de La Scala, le cinéma art et essai de la ville de Thionville, ce vendredi 27 février, dans le cadre de ces vénérables Nuits Bis. Une Nuit Bis, c'est quoi? C'est une double programmation autour de deux films de cinéma bis. C'est organisé depuis 2012 là-bas, donc ils ont dû en faire une grosse paire déjà.
Et comme celle de Thomas.
Ils en ont fait une avec Booba Hotep, qui est un super film.
Ouais, Booba Hotep est un très bon film.
Donc ils ont fait une.
Alors j'aurais pas dit que Booba Hotep était un film bis. Et voilà, du coup je me suis dit, mais le cinéma bis, mais qu'est-ce que c'est?
Et alors, tu t'es plongé dans ce monde merveilleux.
Non, pas plongé, juste pas trempé les orteils un petit peu.
Bah oui, parce que sinon il y a le
requin. Tu spoil pas les Dents de la Mer, s'il te plaît.
Je spoilerai rien. Alors sur
Wikipédia, le requin, c'est un fantôme.
Mais chut. Le cinéma bis, c'est du film réalisé sur la base de recettes éprouvées avec des moyens réduits. J'aime bien cette petite phrase qui résume le truc. En gros, on nous dit que c'est de la série B, de la série Z, du cinéma d'exploitation et plus généralement des films destinés à l'époque au circuit des salles de quartier. Jaws, vous connaissez tous le classique de Spielberg sorti en 75. Moi, je dirais pas que c'est du cinéma bis.
Spiel qui?
C'est un vrai blockbuster.
C'est pas un film qui allie justement les deux.
Ah, tu veux
le premier cinéma B qui est le premier B-movie, ce qui est devenu au-delà qu'un simple B-movie. Mm-hmm.
C'est considéré comme le début du blockbuster.
Il devait quand même avoir des sacrés moyens. Oui, pour moi, c'est le début des blockbusters. Mais...
Ah, il y avait même trois requins
dans les historiens du cinéma, c'est considéré en tant que tel.
Du coup, c'est un B-movie bien.
Un film charnière.
Un film, voilà.
Ouais, c'est ça.
Un film charnière.
Donc un film meurt.
Mais de toute façon, on s'en fout ça parce que le c'était qu'un prétexte. Hein, Jaws, le vrai truc de la soirée, c'était de passer Jaws 3D.
C'était pour avoir une programmation.
C'était un bon film pour passer un prétexte pour passer à un mauvais film. J'avoue que c'est.
Qui est un film de 83, donc réalisé par
Belle
Joe
année.
Alves, comment tu dis?
Alves.
Alves.
Moi je le dis français,
Alves. Monsieur Alves, c'était mon voisin, il était maçon.
Monsieur Alves.
Monsieur Alves.
Non.
Pas de blague avec les
maçons. Autre que vous dire.
La mission avec moi de Monsieur Alves.
Finis toute l'émission avec cet accent.
Je sais pas faire l'accent portugais.
Tu fais l'accent pinois.
J'ai du mal à imiter ma voisine qui est portugaise parce qu'elle a pas de dents. Enfin bon, bref.
Tu dois passer des super agréables.
Joe Alves.
Tu n'en es qu'à ton troisième paragraphe.
Exactement, t'as vu ça? C'était en présence du monsieur lui-même. Hein. Il a été chef décorateur sur Jaws, premier du nom. On peut dire que c'est un peu lui qui a imaginé le requin. Alors il nous a expliqué tout un tas de trucs. Qu'il y avait trois requins en vérité pour tourner Jaws. Un qui allait de droite à gauche, un qui allait de gauche à droite, et un qui allait de haut en bas. Voilà, c'était passionnant.
Mais une fois que tu vas de gauche à droite, comment tu reviens?
Enfin, je veux dire, les années 70, c'est pas une époque arriérée. Tu pouvais construire un requin qui allait en même temps de gauche à droite,
non,
de droite à gauche.
C'était pas possible, tu vois.
C'est Monsieur Alves, c'est vrai son truc.
Que le film avait été fait dans l'urgence.
Non, mais c'est simplement parce que c'était sur les requins sont montés sur des plateformes, en fait. Donc, les déplacements étaient limités. T'as un moteur qui va dans un sens et pas dans l'autre, sinon, c'est tout un bordel, quoi.
Vous n'avez pas l'air très calé en technique, je vous vois tous.
Bah non, non, on n'est pas très.
Pourtant, vous faites des films.
J'ai jamais appris à faire un requin qui va que de gauche à droite, j'avoue.
Le nôtre, il ira dans tous les sens.
C'est ça.
Ceux de Sharknado, ils vont dans tous les sens. Hein.
Pour la fête du requin.
Ils vont surtout de haut en bas, d'ailleurs. Mais vas-y, je te laisse.
L'intérêt, c'est quand même que ça se voit pas. Ah, oui. Et moi, j'étais pour voir Jaws, là où ça se voit pas, qu'il y a trois requins et tout ça. C'est un de mes films préférés de tous les temps, et je voulais absolument le voir sur grand écran. Je sais pas ce qu'il en est du reste du public, mais toujours est-il que la Scala a fait salle comble ce soir-là, parce que les 200 sièges de la salle 1 étaient occupés. Donc, Monsieur Alves a même le droit à une standing ovation en arrivant. Voilà, vous l'avez compris.
Ouais, est-ce que ça aurait été si c'était Spielberg?
Et bon, on serait peut-être pas là si on vit.
Je me serais roulé par terre.
Mais pourtant, t'as des contacts, Thomas, aux États-Unis, tu t'aurais pu le faire venir.
Mais Casey Fox a jamais tourné pour Spielberg. Ah,
tu t'as pas assez de relations.
Non.
Faut que tu y retournes.
Je fais ce que je peux.
Bon. Les prochaines soldes, c'est quand?
Soldes d'hiver, on saute bientôt. Nous.
Bon, arrêtez de parler chiffon,
voilà,
là.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, surtout, vous l'aurez compris, le cinéma bis, c'est pas mon truc, c'est facile de m'égarer. Cela dit, je suis une grande amatrice de films de monstres. Alors, j'ai vu Jaws lors de sa première diffusion de télé, c'était le 11 mars 86. J'ai fait des recherches. Je sais plus sur quelle chaîne. J'avais 7 ans.
Pas fait assez de recherches.
Non, mais non. Ça, il y avait pas, c'était pas noté.
En 86, il y avait que 3 chaînes,
le RTF.
Il y avait que 3 chaînes, ça devait être TF1, tu sais. Antenne 2.
Non, France 3 peut-être.
Antenne 3.
Antenne 2.
FR3. Donc 86, j'avais 7 ans, c'était chez ma grand-mère, parce que mes parents, je pense, ne m'auraient jamais laissé voir ce film. Manona, elle s'en foutait, elle voulait le voir aussi. Elle a même préparé des chips maison, tu vois, pour qu'on grignote devant. Et je me souviens que j'ai vraiment trop kiffé ma race. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar terrible. C'était une espèce d'histoire de poule géante qui voulait tuer mes parents. On n'a jamais su si c'était à cause du film ou des chips, tu vois. Mais c'est une histoire vraie, vous pouvez demander à ma mère, elle en rigole
C'est une minute moins doucement glissée, ça.
Mais non, ça c'est l'art.
C'est ça,
sans
en avoir.
C'est vrai que mon tort, c'est de l'avoir annoncé.
Jenny, elle a l'art de raconter les films sans raconter les films.
Et ça, c'est la minute ouf.
C'est vrai que là, on a tous mangé des chips, on a tous rêvé de poule.
Tout mon truc s'écroule parce que vous me coupez toutes les trois lignes et du coup, il y avait une espèce de progression.
Ah, mais vas-y.
Je vais faire en sorte que tu ne sois plus coupé.
C'est vrai.
Je vais Merci. Faire respecter.
Bon, tout ça pour vous dire que la semaine suivante, j'ai vu Orca dans la exacte même situation et que mon sort était scellé à tout jamais. Bref, voilà, ça tombe complètement à plat, c'est pas grave. Alors tout le monde connaît Jaws en fait. Hein, Brody,
attends, parce que t'essayes de nous faire peur avec Orca, vraiment.
Non, mais non, j'essaye pas de vous faire peur avec Orca, mais.
Non, mais je sais pas, c'est comme pour le.
Tu vois, alors maintenant, on me coupe tous les trois mots. Quoi.
Mais je connais pas mieux en mieux.
Bah, c'est un film.
Chut, Orca, pardon. C'est vraiment mauvais. C'est avec un orque. Une orque. Non, un orque.
Un orque.
C'est un film de Peter Jackson.
Non, un orque. C'est un orque genre.
Dans les églises.
Un orque,
c'est comme un peu quoi. Mais.
Là, c'est une orque. C'est ça, là, c'est une orque.
Sauver Willy, c'est une orque.
Ouais.
J'apprends un truc là.
Mais pourtant, c'est con, il a un prénom de garçon quoi.
Non, mais on s'en fout, c'est comme une grenouille, tu vois.
Bah, les grenouilles,
la grenouille, c'est que des filles.
Ouais.
On continue à faire de la biologie pour des vies profondes ou comment ça se passe?
Chers auditeurs, je vais vous révéler quelque chose.
Anthropologie,
en fait.
Cinéma.
Donc Valentin trouve tous les prétextes possibles et imaginables pour allonger l'émission.
La minute moi, c'est moi qui m'a soufflé.
Oh non, tu as révélé.
Ah, le secret est révélé. Spoiler
ce quatrième épisode.
Mais par contre, si tu continues comme ça, on va vraiment dépasser le temps.
Tu vois. Ah oui, parce que c'est sa faute à elle, bien sûr.
Bien sûr, c'est moi qui coupe tout ça.
Toujours la faute des femmes, hein.
Ça y est.
Ouais, on serait prêts en majorité ce soir. Presque, presque. Donc, je reprends à la moitié. Hein. Tout le monde connaît Jaws, donc Brody, Hooper, Quint, Le Grand Blanc. La bonbonne d'air comprimé. Tout le monde connaît Jaws 2.
Grand bateau.
Ouais, c'est ça. 78, alors Jaws 2, c'est réalisé par un mec qui s'appelle Jano Svark. Il a fait Supergirl et puis plein de séries pas terribles comme Cold Case, Bones, Fringe. Ouais, je ne connaissais pas avant ça. D'accord. Donc Jaws 2, en gros, on prend les mêmes ou presque et on recommence. La photo de l'œil du requin en gros plan, la bande d'anneaux énervant, la ligne à haute tension. Bon, c'est pas réalisé par Spielberg et ça semble et ça reste tout à fait honorable. En revanche, qui connaît le pitch de Jaws 3D? C'est une autre histoire. Alors on a trop du film. À Thionville, on nous a dit qu'on était là pour réhabiliter ce film. Moi, à vrai dire, j'en gardais un bon souvenir de quand j'étais gamine. Mais je suis incapable aujourd'hui, après l'avoir revu, me avec la meilleure des volontés, de dire que c'est un film à réhabiliter. Déjà parce que c'est le premier Jaws de la série qui reprend aucun des deux acteurs des épisodes précédents. Et je voue une admiration sans limite à Roy Scheider. Donc déjà, c'est un mauvais point. Ensuite, parce que c'est vraiment du cinéma bis. Donc c'est ce qu'on disait, hein, série... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Florian Schell fait des selfies. Ah non, des câbles fins. On prend une recette qui a déjà fonctionné et on refait le film avec peu d'argent. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se passe dans un parc d'attractions marins qui s'appelle SeaWorld. Ça commence avec une scène de majorette aquatique, enfin des skieurs nautiques si vous préférez. Ça se poursuit avec des dauphins qui s'appellent Cindy et Sandy. Aurait-on idée de faire un truc comme ça?
Ça donne envie.
Ouais, voilà.
Elles font du fitness?
Bah, c'est des dauphins. Ah. Ils font des pirouettes de dauphins.
Ils sont le fitness. Ouais.
Puis il y a Manimal aussi. Vous vous souvenez de Manimal? Oh, Simon McCorkindale, qui joue le rôle d'un journaliste où on ne sait pas trop bien, en fait. Ça reste assez obscur. Puis en fait, c'est un des fils de Martin Brody, donc l'ancien chef de la police d'Amity, qui est le gérant du parc. Son autre fils, qu'on voit dans Jaws 1, lui, il a une peur panique de l'eau, il ne veut plus y aller. Et là, tu te dis, attends, ça devient quand même un peu personnel entre la famille et les requins. Même limite un peu gros, c'est de la persécution. Mais bon, voilà, le film se poursuit. Puis au bout d'une heure, tu te rends compte que, mis à part un disparu, donc tout le monde se fout complètement. Et de bavardage de machine à café, il ne s'est rien passé. Pendant une heure, il n'y a pas d'action, que dalle. Bon, alors, ils finissent quand même par se rendre compte qu'il y a un plongeur qui manque à l'appel. Hein. Puis tout s'enchaîne très vite et en une demi-heure, on te torche le film. Capture d'un requin, mort d'un requin, apparition du cadavre. Alors, il reste sa tête et un petit bout de son tronc. Puis t'as une meuf qui vient faire l'autopsie et elle dit « Vu les blessures, c'est un requin qui a une mâchoire d'au moins 1 mètre de large. Donc le requin qu'on a, c'est pas le bon requin, il doit mesurer au moins 9 mètres. » Enfin, il reste rien du mec, c'est juste ridicule. C'était pour faire vraiment une scène un peu gore.
Comme rappeler le premier film.
Ouais, sauf que là, on n'y est vraiment pas, quoi. Les effets spéciaux sont pourris. Pourtant, on pourrait se dire, merde, c'était le chef d'écho de Jaws 1. Pourquoi sur ce troisième, il nous fait n'importe quoi? Ouais, peut-être le manque de thunes, peut-être pas. À savoir, on le saura peut-être jamais.
Mal dirigé.
Peut-être, hein. Puis bon, voilà, après, panique à bord chez Cindy et Sandy, apparition du vrai requin géant qui pète la vitre de la salle de contrôle. Le fils dégoupille à l'aide d'un bâton, une grenade restée dans la main d'un mec qui est dans le requin, que le requin a partiellement avalé. Hein, le requin pète et hop, coucher de soleil, musique de fin, pirouette de dauphin. Tout est bien qui finit bien.
Le film s'est terminé, la fin est trop belle.
Ça a l'air génial.
Wow,
c'est magique.
C'est déterminé là.
Bon, alors, je suis peut-être pas la mieux placée pour apprécier ce genre de film, mais bon, je trouve ça manquait quand même d'humour pour que ce soit supportable. Puis j'ai tendance à me méfier de tout ce qu'il y a de la 3D. Alors évidemment, le titre était parfait pour qu'on lui colle un D derrière, un Jaws 3, D, ouais, magique. Mais j'ai souvent la désagréable impression que c'est le cas quand le scénario est un peu faiblard, on va te mettre des effets 3D, voilà, ça rattrape un peu le coup, comme par exemple Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui était vraiment pas terrible, on nous a mis de la 3D pour égayer un peu le bordel. Bon, voilà. Donc voilà, une demi-nuit bis, en tout cas, la Scala a le mérite d'organiser ce genre de soirée. C'était vraiment un plaisir de voir Jaws sur grand écran, mais désolé pour la deuxième partie de soirée. J'aurais peut-être mieux fait de rentrer à la maison.
Pas été convaincu.
Voilà.
Il me semble que Jeanne Osfarc a réalisé un film avec Christophe Lambert.
C'est vrai?
Voilà, je voulais te couper pour dire ça, mais maintenant ça n'a plus aucun intérêt.
Parce que moi, t'as envie de voir Jaws 4 maintenant.
Et je crois que j'ai vu ça, mais je me souviens plus.
Parce que ce que t'as dit, c'est juste quand même. Il y a vraiment une espèce de rancœur du requin qui veut se venger de la famille et tout. C'est explique dans le dernier, il l'explique vraiment.
Dans le 4, c'est vraiment personnel.
Ouais, ouais, le requin, il veut buter juste sa famille.
It's time, it's getting personal.
C'est ça, quoi.
C'est la vendetta du requin.
Oui, il a fallu 4 films pour expliquer ça, quoi.
Il est peut-être un peu lent d'esprit, le requin. Il lui a fallu 4 films.
Mais non, c'est parce que c'est profond et complexe.
De toute façon, on se doute bien que le reboot arrive dans quelques mois, quelques années. Oui. Là,
la préquelle.
Comme tout Hollywood.
Le spin-off.
Eh bien, on va tout de suite passer à notre avant-dernière rubrique, qui est animée par Florian, et qui est donc la rubrique Soundtracks.
Alors, je n'ai rien préparé, comme d'habitude.
C'est pas grave.
C'est dans ce domaine que j'excelle.
Ah oui, quand il faut faire Tanaka comme un cinquième, là, c'est bien, ouais, mais sinon, il y a
Tanaka,
personne.
Tanaka, putain, j'ai flingué mon disque. Bon, bref, je suis disquaire. Attends, mes heures perdues.
La minute, moi.
Et
mes heures perdues.
J'achète beaucoup de disques et je suis un gros fan de Goblin.
Et là, y a tout un travail de réédition qui est fait par plein de labels italiens, notamment Dagored, qui avait déjà édité fin des années 90, début 2000, les scores pour Zombie, pour donc Les Frissons de l'Angoisse, Suspiria, donc très belles éditions. Et là, donc, j'achète un peu tout ce qui sort autour de Goblin. Et donc, Claudio Simonetti, qui faisait partie de Goblin, a sorti un coffret édité à 666 exemplaires, prétextant le 40e anniversaire de Profondo Rosso. Je trouve que c'est un
ce petit film.
Voilà, ce petit film de. Ce petit film
d'un inconnu.
Voilà. Qui ne contient pas de requins ni de dauphins, mais quelques bons meurtres bien sanglants et une superbe musique. Donc voilà, il a prétexté ce 40e anniversaire pour sortir un coffret et nous faire raquer, nous, fans qui achetons les yeux fermés.
666 euros.
Non, 50 euros. Donc voilà, j'ai commandé ce disque, ce coffret pour 50 euros. Et pour 50 euros, je vais donc te dire ce que j'ai.
The Télé-Achat donc, Cinéma
Voilà, j'ai déjà un coffret noir avec des autocollants qui tiennent pas trop bien.
Ils tiennent pas très bien.
Voilà, limité.
Il vaut plus
de
45 maintenant.
Ouais, donc, de toute façon, je ne comptais pas le revendre, mais si je le revends, à mon avis, ouais, j'ai perdu un peu à l'Argus. Alors, dedans, on a déjà des posters. Merci. Parce que voilà, le papier, ça coûte pas cher. Donc, on a un poster qui fête le 40e anniversaire de Profondo Rosso avec plein d'affiches différentes. Voilà.
Tu sais que les gens ne voient pas ce que tu
montres. Non, mais moi je le vois, donc je dis ce que je vois. Voilà.
D'accord. Alors, voilà.
Tout de suite, t'as un extrait du poster.
Voilà. Voilà.
Tu brûles vachement bien le papier quand même.
Écoute, je me suis entraîné. Là.
Tu t'es déjà tiré. Voilà.
Nous avons ensuite un poster d'opéra. Donc, un des plus grands films de Dario Argento, comme chacun le sait.
C'est inconnu.
C'est voilà. Pas. C'est méchant. C'est ironique avec ce film.
Non, mais bon.
Ouais, c'est petit.
J'aime bien cette. Pardon, excuse-moi, Jenny. J'aime bien cette scène là, quand elle a les aiguilles sous les paupières. Je trouve que c'est vraiment forcément une super scène. Je prends beaucoup de place.
Mon préféré, c'est Dracula 3D, je pense.
Ah, on va avoir une. On va faire une spéciale Dario Argento parce qu'il faut quand même.
Et donc un troisième poster avec Démonie parce que c'est Dario Argento présente. C'est réalisé par Lamberto Bava, le fils de
Mario Bava. Voilà,
tu me dirais la tagline.
Faranno dei cimiteri le loro cattedrali e della città le vostre tombe. Ah,
sexy.
Appréciation de.
Felicità. Voilà.
Felicità.
Ah d'ailleurs oui, je voulais dire ça. J'ai entendu le podcast de la dernière émission. C'est Albano et Romina.
Oui, Romina.
Tu as dit quoi, Romina?
C'est pas moi qui ai dit ça.
Non, c'était l'invité. Romina, je crois.
Non, ça c'est en Iran. Bah, ça.
C'est leur faute à eux.
Romani Power.
Romani Power, c'est pas le même.
Voilà, donc, alors, et donc on trouve.
Alors, un disque enfin.
Un disque, un 10 pouces de couleur rouge parce que c'est Profondo Rosso qui contient 4 morceaux.
Qui est profondément dans,
qui est dans le thème, c'est clair. Alors, il me semble que ce sont des morceaux réenregistrés par le groupe de Claudio Simonetti, parce qu'il continue à tourner sous le nom Goblin, mais avec d'autres musiciens. C'est peut-être le moins pire des disques du coffret, parce que ça sonne quand même comme du bon vieux Goblin qu'on connaît, qu'on va entendre tout à l'heure. Pardon, excuse-moi Mélodie. Ensuite, on a la BO donc d'opéra, composée, c'est écrit en gros, par Claudio Simonetti, et non pas par... Goblin, donc, mais il s'est fait un petit plaisir. Hein.
C'est lui qui paye.
Voilà, et la BO de Démon, aussi composée par Claudio Simonetti, et donc ça fait partie vraiment des travaux les plus inintéressants du compositeur. Ça sonne comme du vieux prog avec un son 80 vraiment horrible. Je les ai encore écoutés cet après-midi pour préparer mon intervention, et hormis les percussions au début de Démonie, je trouve vraiment pas de choses à sauver. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même un peu soigné il a pas soigné le packaging parce que ce sont des éditions très simples, c'est du 140 grammes avec une pochette pas très belle. Mais il a mis quelques petits bonus, des lives, donc forcément ça va plaire aux fans. Voilà. Mais 50 euros quand même. Quoi. Voilà.
Ça fait cher. Il y a les affiches, mais ça fait cher.
Et voilà, il y a les posters, mais bon, j'ai plus 15 ans.
On n'ose même pas les afficher parce que.
Non, bah,
ça
ouais, rien.
C'est ça.
Donc voilà, je suis peut-être un peu naïf de continuer à dépenser autant d'argent pour ça, mais. Que voulez-vous ? C'est de la merde !
Mais. Tant qu'il continuera, tu continueras.
Mais oui,
c'est très bien.
On est allé les voir à Paris.
C'était nul, hein.
On était assis à côté d'Olivier Cachin.
On était assis à qui était habillé en blanc.
De qui, pardon?
Olivier Cachin. Rapatitude.
Oui, je vois qui c'est.
Journaliste.
Et alors, le concert était vendu comme un concert de gobelins où ils allaient jouer tous les morceaux connus des films. En fait, ils ont fait la moitié de leur concert sur leurs albums solo. Enfin, leurs albums solo. C'est, non, leurs albums hors cinéma. C'était du bon vieux prog à papa, mais c'était pas super intéressant. Et depuis, j'ai cette petite rancœur envers eux. C'est
envers
pour ça que,
envers eux.
Voilà. Mais les anciens morceaux défoncent, quoi.
Même réenregistré.
Eh ben ouais, on va peut-être en écouter un extrait.
J'ai toujours la BO de Suspiria dans les oreilles qui sonne.
Alors ça sera pas la BO de Suspiria du coup puisqu'elle est pas dans le coffret.
Non. Mais on aurait pu. Hein. J'aurais préféré.
La BO de Profondo Rosso.
Ça sera la BO.
Ils ont joué.
Ah oui, ils l'ont joué. J'ai intérêt à le jouer, sinon c'était l'émeute.
C'est comme si Bon Jovi chantait pas
Living on the Prayer. Bien entendu. Ça n'a aucun sens.
Et bah, du coup, on va écouter donc un extrait de la BO des Frissons de l'Angoisse. Le morceau, c'est Mad Puppet. Thank you.
Allumez les micros. Moi, j'accorde ma basse.
C'est un plaisir.
Voilà.
Les gobelins.
Voilà. Qu'on pourra associer donc du coup aux orques.
Peter Jackson.
Dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Peter Jackson Power.
Il y a un thème un peu héroïque.
Peter Jackson 5. Tu veux pas monter un groupe qui s'appelle Peter Jackson
5. Peter Jackson 5. Ce serait un bon groupe de. On va revenir un peu vers les No Reason, puisque aussi on a écouté tout à l'heure
ont des choses à dire.
Un extrait de Marte Di Rosso qui fait un très très italianisant. Allez-y, lâchez-vous.
Mais vous en savez dites, quelque chose, mon cher, vous qui êtes dans ce film d'ailleurs.
Moi, je suis pas du tout dans ce film.
Qui nous a aidé également, Valentin, et c'est vrai qu'il faut le dire, à la traduction. Et c'est vrai que les gens ne savent pas peut-être forcément, mais Valentin a le rôle principal d'une des vidéos qui est quand même la vidéo de
on
la Galette des Rois.
C'est la minute, moi, ça y est, mais il l'a fait pour moi.
Mais on peut également aussi citer la vidéo de Nouvel An où il joue un animateur radio.
Et c'était bien avant donc, que je sache que voilà. Je passe cette émission ce soir.
Quand même. C'était, voilà. Tout est lié.
Voilà, voilà. Non, mais je sais pas, un petit mot sur du coup les gobelins, enfin l'inspiration du coup sur la musique. Est-ce que c'est quelque chose que enfin, ça a une importance évidente dans les films, puisque c'est des films.
Pour ce film-là, je pense qu'on n'avait pas le choix, ouais. Pour ce film-là, on était obligé, si on voulait faire un clin d'œil à Lucio Fulci et au cinéma bis italien, il fallait qu'on entende quelque chose qui sonne un peu Goblin ou au moins Fabio Frizzi, Rizzo Ortolani et autres.
Stelvio Cipriani.
Stelvio Cipriani.
Autre musicien italien.
Voilà. Donc, du coup, oui, forcément, on a essayé de faire quelque chose.
Des prénoms qui finissent en O et des noms qui finissent en I.
Bah, nous, notre compositeur s'appelle Cédric Harry, donc du coup, on est complètement dans la...
En un seul mot. C'est voilà. Complètement ça. C'est complètement ça. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, on passe à la dernière partie de l'émission. Et on va faire donc un tour de table très rapide, en fait.
C'est quoi, comme c'est ça, les chaises musicales?
Un peu aléatoire. C'est un peu les chaises musicales, enfin les chaises cinématographiques, du coup. Donc, sur les derniers films que vous avez tous vu autour de la table. Nous en dire deux mots, donner envie ou pas envie de voir des films très rapidement. Thomas, on commence avec toi, c'est une nouvelle minute. Toi, tu vas pouvoir nous parler de...
J'ose plus, vous arrêtez pas de foutre de ma gueule. Non, je me mets un petit peu à niveau dans l'animation japonaise, notamment tout ce qui vient du studio Ghibli, qui m'avait jamais vraiment attiré avant. Et en plus, j'ai pas vraiment une grande culture de l'animation japonaise et je voulais voir que des trucs un peu couillus comme Akira. Donc j'en ai vu 4 ou 5, notamment Le Château dans le Ciel ou Nausicaa. Donc gros coup de cœur pour Le Château dans le Ciel, où on suit deux jeunes à la recherche d'une forteresse volante abandonnée et qui sont poursuivis par une poignée de pirates, l'armée. Et qui, malgré le dessin et l'animation plutôt datés, le film est de 86, ne connaît aucun temps mort pendant 2 heures, et c'est une grosse aventure, c'est vraiment vraiment plaisant à voir. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'imagine que vous n'êtes pas beaucoup, allez-y. Et sinon, une mention spéciale pour Porco Rosso, dans lequel Jean Reno tient sûrement son meilleur rôle.
Son seul bon rôle.
Son fait. Meilleur rôle.
Tu oublies Opération Cornet Beef.
Ah, pardon. Et Wasabi. Qui on revient toujours au Japon, hein, évidemment.
Tanaka.
Et ben, du coup, on va passer à l'autre moitié du couple japonais. Jenny, c'est quoi le dernier truc que t'as vu
Le dernier truc que j'ai vu, c'est.
Que t'as pas aimé.
Ouais, j'ai pas aimé.
T'as pas aimé.
Before I Go to Sleep de Rowan Joff avec Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong. Alors, c'est l'histoire d'une nana qui, à la suite d'un accident, se réveille tous les matins avec la mémoire de ses 20
avec
ans.
Avec la tête de Nicole Kidman.
Alors, déjà, c'est un truc, quoi. Ouais. Nicole Kidman, elle a plus la même tête qu'avant. Je sais pas si vous avez vu.
Il n'y a quoi pas de doute.
Tu confonds, c'est Uma Thurman.
Non, mais on dirait que...
Ah, mais ça m'intrigue ce que tu dis.
Elle s'est tout fait refaire.
On dirait qu'il y a eu un accident d'aérosol. En fait, qu'il y a eu un choc de flamme et qu'elle s'est fait brûler le visage.
Quand tu regardes les autres et ensuite t'enchaînes Paperboy, ça fait...
Ouais, ça fait peur. Hein.
D'accord. Ouais, ça fait peur.
Mais même dans Stalker, elle était toute...
Ouais.
Ouais, ça m'avait pas trop choqué.
Steven Tyler aussi, il est tout botox.
Elle avait juste l'air d'avoir un peu de soleil.
Depuis qu'elle a vu l'expression, elle joue vachement bien.
Donc voilà, Nicole Kidman se réveille avec sa gueule, non seulement, et puis avec la mémoire de ses 20 ans, alors qu'en fait elle en a 40. Donc un jour, quelqu'un va lui révéler que...
Elle en a 47.
Qu'elle s'est enregistrée la veille avec un appareil photo et elle a fait une petite vidéo d'elle. Et cette petite vidéo d'elle-même va l'amener à douter de tout ce qu'il y a autour d'elle, en fait. Et à mener jour après jour une enquête sur ce qui s'est passé, sur son passé, qui n'est évidemment pas celui qu'elle croit. Alors, est-ce qu'on passe un bon moment?
Valentin,
c'est très important. Est-ce qu'on passe un bon moment?
Passable. Voilà. Je sais pas si c'est un indicateur de qualité, parce qu'il était tard, mais je me suis endormie avant la fin.
Et moi, je me suis endormie.
Au bout d'un quart d'heure, ouais, je crois. Ouais. Alors, en revanche, j'ai regardé la fin. J'ai quand même regardé la fin cet après-midi.
Très constructive ce soir. Ouais, voilà.
C'est bien. Il y en a qui critiquent sans avoir rien vu.
C'est vrai.
Bah oui, tu, toi aussi.
Non.
Ah. Pardon, je peux regarder.
Vas-y, continue.
Donc voilà, je vais clore. Donc je disais que j'ai quand même par conscience journalistique, parce que tout le monde n'a pas autour de cette table. J'ai regardé la fin cet après-midi et j'ai trouvé ça merdique. Donc voilà, ne regardez pas ou sinon avant de vous endormir.
Juste par curiosité morbide.
Ouais, ou avant de s'endormir, c'est pas mal, parce que c'est ce genre de film, tu t'en fous, tu te dis, hein, je vais juste écouter le son, je repose mes yeux 2 minutes et puis tu t'endors. C'est
comment
parfait.
Ça s'appelle?
Before I Go to Sleep.
Ça porte très bien son nom.
Voilà, tout à fait.
C'est dommage parce que le casting est sympa.
Ouais. C'est pas déplaisant jusqu'à la dernière demi-heure d'action où ça retombe à plat un petit peu. Voilà, passable donc.
Alors, c'est réalisé par Rowan Joffé. Est-ce que c'est un rapport avec Roland Joffé?
Je crois que c'est un rapport. Ouais. Ouais. Il me semble avoir vu peut-être son fils. Ou son.
D'accord.
Moi, ça me fait juste penser au
Toffifé.
Les chocolats et le caramel.
Ah oui,
ton père.
Voilà.
Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant à celui qui n'a pas compris le principe du tour de table, puisqu'on lui demande
puisqu'il
de choisir en
tout
une
monde
chose et qu'il en choisit plusieurs.
Mais j'étais en train de manger un bagel. Comme
alors,
je
c'était.
Du coup, je réponds.
C'est Florian qui donc va nous raconter tout ce qu'il a vu depuis ce début de cette émission.
Depuis 6 mois. Hein. Ça tombe bien. Je les note dans mon téléphone parce que j'ai peur d'oublier. Ça pourrait faire un bon pitch de début de film. Hein.
Alors,
ça serait un film passionnant.
Before I Forget.
Flo qui va donc nous
le
parler
gars qui fait
de...
la liste de ses films.
Bah oui, j'ai pas de mémoire.
Mais c'est... Non.
La minute couple. Non, elle n'aura pas lieu.
Donc Flo qui va nous parler de...
Non, ce sera des heures.
Non, on saura toujours.
Attends,
pas.
Attends, rentre.
Tu vas nous parler de quoi?
The One I Love. Que tu m'as conseillé. Tu m'as parlé de Marc Duplass. Il fait... J'aime bien les films qu'il a fait avec son frangin, Jay. C'est ça, Jay Duplass. Et puis tu m'as parlé de films.
Moss.
Ouais, mais je le connaissais pas trop. Non. En revanche, tu m'as parlé d'un film qui commence comme une espèce de comédie un peu dramatique sur un couple à la dérive qui part faire une thérapie dans une petite retraite à la campagne lors d'un week-end. Et après, tu m'as dit ça part vraiment dans un délire un peu inattendu, toujours à lisière du fantastique. Et ça m'a intrigué. Et donc effectivement, je l'ai téléchargé, pardon. Je l'ai regardé et je suis resté complètement scotché.
Illégalement,
tout à fait, grâce à All Debride. Pour 2,99€, vous pouvez gratter tous les débris.
Sachez que Florian Schall, donc, habite...
pour Adopi.
Au 9. Non, mais donc,
Et ouais, j'étais scotché par ce film. Effectivement, c'est fait avec trois fois rien, probablement dans la maison de campagne des frères Duplass.
C'est la maison de campagne d'apparemment Ted Danson.
De Ted Danson, très bien qu'on voit. Donc effectivement,
voit
3 minutes au début, ouais. C'est toujours un plaisir. Et ouais, avec des effets tout simples, ils ont réussi à me prendre dans cette espèce de j'allais dire un quadriangle, mais donc un quadriangle c'est un carré.
S'il y a deux personnes dans
il y a quatre.
Alors nous on est peut-être pas fort en mécanique.
Une bite en géométrie. Un carré amoureux avec des personnages, je veux pas spoiler, mais enfin c'est vraiment très très bien. Ça m'a rappelé Cohérence, ce film de science-fiction qui m'a bien soufflé l'année dernière, qui était fait également avec trois fois rien, juste des idées toutes simples, tout était basé sur le dialogue. Et effectivement, quand t'as un bon scénario, de bonnes phrases, quelque chose qui est pensé et logique, ça coule tout seul et ça fait vraiment un excellent film. Et puis la fin m'a un petit peu déprimé d'ailleurs.
Je trouvais l'expression de Marc Duplass à la fin vraiment. Cette résignation là. Ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé.
Alors, juste comme ça, en deux secondes, j'ai vu ce film avant d'aller dormir, mais pas celui tout à l'heure. J'ai vu le film là, One I Love avant d'aller dormir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, c'était le plus gros bad de ma vie.
Ah oui, ouais.
C'est horrible.
Ouais, je peux comprendre.
Cette pire scène de petit déjeuner du monde, de réveil.
Ah oui, comme ça.
C'est un peu ça. Bah merci beaucoup. Oh, non, t'avais.
Je choisis celui-ci.
D'accord. Alors bah très bien. Merci. du coup, les No Reason, vous avez... qu'est-ce qui vous a marqué là récemment? Est-ce que vous avez vu les dernières choses?
On doit s'exprimer comme une entité ou
Vous devez vous exprimer comme
en
une
même
entité.
Temps
vous
et synchroniser.
Un film.
Oui, vous devez parler en même
Alors
temps.
Chacun parle de son film en même temps. Et je donne le top. Non, mais je vous écoute. On commence par Mélodie. Ouais. Elle a très envie de parler.
Ouais, très bien. Ben, récemment, le film qui m'a marqué, c'est Tusk de Kevin Smith. Alors bon, le casting, je retiens pas très bien les noms des acteurs, donc je pourrais pas les citer, mais ils sont connus. Il y a un certain Guy Lapointe dedans. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un ovni, cinématographique. C'est l'histoire d'un chroniqueur radio, me semble-t-il. Ah. Non, par radio.
Si, c'est ça.
Si, c'est ça.
Animateur de podcast.
Ouais,
podcast.
Animateur de podcast, ok.
C'est ce qui va nous
arriver. Qui part pour faire une chronique sur un mec qui s'est coupé la jambe et qui a posté la vidéo sur Internet. Sauf qu'il va pas trouver ce gars et qu'il va se retrouver embarqué dans un tout autre délire. Un mec qui va le séquestrer. Et qui a une obsession un petit peu bizarre. J'ai pas très envie de spoiler.
Donc, on va s'arrêter là. Ouais.
Voilà. Donc c'est très très bien. C'est drôle et c'est un peu malsain quand même. Enfin, ça m'a quand même mis mal à l'aise, surtout la fin.
On n'a pas vraiment envie d'être dans la tête de Kevin Smith en ce moment.
Ça pousse le malsain jusqu'au bout, je trouve, ce film.
C'est Human Centipede en drôle.
On en avait parlé à l'occasion
à ce moment-là
de la spéciale Gérard.
Mais en fait, c'est vraiment ça.
Ça donne vraiment envie, pour le coup.
Ça pousse vraiment le malsain.
Bah, déjà, Human Centipede était drôle, mais là, c'est drôle volontairement.
Ouais, c'est drôle, mais quand même, je trouve la fin, ça m'a vraiment laissé une impression très très bizarre. Quoi.
La fin est. Comme dit, on n'a vraiment pas envie d'être dans sa tête.
Voilà.
Mais ce qui est encore plus badant, c'est de voir comment a grandi le gamin de 6e sens.
Oui.
Il est devenu gros et affreux.
Il n'a
pas envie d'être dans son corps.
Il est devenu en envie d'être dans son corps, non.
Il était déjà gros dans 6e sens. Il avait une grosse.
Mais pas du tout.
Il était mignon, tu voulais lui faire comme ça, là.
Putain, par contre.
Il avait une grosse tête.
Bah, merci beaucoup, Mélodie. Thibaut.
Oui, je dois parler donc du dernier film que j'ai vu.
Le dernier film que t'as vu.
Le truc
que tu veux, en fait.
La dernière chose que tu as vu.
Ouais, le dernier film que j'ai regardé.
C'est votre film de No Reason que t'as regardé sur YouTube.
Non, je vais dire le titre du dernier film que j'ai regardé. Le titre français complet, c'est Godzilla, Ebira, Mothra, duel dans les mers du Sud. Donc c'est un vieux film de kaiju japonais qui date des années 60. Je crois que c'est réalisé par Yun Fukuda, je ne sais même pas trop comment ça se prononce. C'est japonais. Ça a super mal vieilli, c'est ultra kitsch et je regarde tous les vieux films de Godzilla, donc du coup je l'ai regardé, mais je pense pas du tout que c'est le film que je retiendrai. Le dernier vrai film que je pense qui m'a vraiment marqué, je l'ai vu juste avant, c'est un documentaire qui s'appelle Seduced and Abandoned, je prononce bien, je crois que c'est ça. C'est un documentaire sur, en gros, comment est-ce que les réalisateurs indépendants galèrent à avoir des financements pour pouvoir sortir des films, et ça se passe en fait pendant le festival de Cannes, et c'est avec
Alec Baldwin,
voilà, qui du coup est en train d'essayer de démarcher des producteurs et se fait un peu rembarrer par tous les producteurs et puis tous les riches qui sont là-bas en lui disant mais Alec Baldwin, tu peux pas jouer dans un film, tu es un acteur de télé. Le documentaire est vraiment marrant et j'ai trouvé ça vraiment super, et il m'a été d'ailleurs conseillé par monsieur Valentin qui
donc conseille en fait juste tous les films des gens autour de la table, hein.
Ouais, tu m'avais conseillé Tusk aussi,
tu vois, voilà, donc c'est bon.
Mais je quand même le Godzilla machin est vraiment vraiment super, ça reste quand même un film super cool.
Tu as vu Civil War? Godzilla Civil War,
Civil War.
Oui, c'est le Ryuei Kitamura, là. Le mec
C'est Godzilla Final War. C'est de 2004. Mais oui, effectivement, je l'ai en DVD. Et oui, s'il est pas mal non plus.
C'est un gros bordel.
Eh ben, merci.
J'assume mon fan absolu de Godzilla.
Et d'ailleurs, juste, il faut rappeler que je crois qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure pendant les DVD, mais c'est l'occasion du coup, je crois que c'est le 11 ou le 11
Gareth Evans, t'as pas trop violé
qui a là.
Ah, les reboots. Ah non, ça compte pas.
On en parlera une fois, on peut pas trop. Non. Voilà. Mais juste pour dire que je crois que c'est le 11 mars qu'en Blu-ray sort le premier Godzilla de 1954. Et dans une super édition Blu-ray, je peux vous dire que je l'ai vu, c'est exceptionnel.
Merci de me dire ça, Valentin.
Je te la prêterai à l'occasion, ce sera le film que tu regarderas ce soir.
Ça fait 10 ans que je dois attendre ça, ça fait plaisir.
Ben merci beaucoup, Margot. On termine.
Ouais. Alors écoute, moi,
t'as l'air pas du tout.
Si.
Je regarde pas de films, ça me fait chier.
Ouais, non, ça sert à rien le cinéma, on est d'accord. Ouais. Non, c'est un film qui m'a été conseillé par plein de gens.
Ah, mais pas
donc,
moi.
Donc, Valentin. Bah si, donc, toi, je pense. Alors, comment parler d'un buzz bien après, et alors que tout le monde a vu le film et tout le monde s'en fout, mais moi je viens seulement de voir en fait les versions cinéma de Nymphomaniac, volume 1 et volume 2, que je n'avais pas vu avant. Donc. Voilà, j'en avais beaucoup entendu parler, c'est quelque chose que j'avais pas très envie de voir, que ce soit par rapport au thème et aussi par rapport au cinéaste que j'affectionne vraiment pas spécialement. Et donc, ce week-end, pour une raison qui m'échappe, j'ai regardé Nymphomaniac, volume 1 et volume 2. Et j'ai été très très agréablement surprise, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le volume 1. Et c'est assez déconcertant donc de se dire déjà qu'on regarde un film qui n'est pas tel que le réalisateur l'aurait souhaité. Moi, c'est toujours quelque chose que c'est un peu une gymnastique de temps en temps qui revient pendant que tu regardes le film. Tu te dis c'est peut-être pas de cette façon qu'il aurait voulu le montrer, etc. Et en fait, je trouve que les deux films, les deux volumes sont tellement différents que donc moi je n'ai pas encore vu la version Director's Cut. C'est très très difficile d'imaginer. Tout ça en un seul film de 5 heures, en fait. J'ai l'impression que c'est pas linéaire, que c'est deux objets très différents, en fait. Et... Waouh. C'est le fantôme de Blida. Donc voilà, je sais pas... Moi, c'est vrai que j'ai été très, très agréablement surprise et surtout très surprise par l'humour, en fait. C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de très lourd, de très glauque, de très... on va choquer, tout ça. Et en fait, c'est extrêmement drôle, Nymphomaniac. C'est parfois même complètement débile, en fait. C'est assez... assez déconcertant et j'ai l'impression que le film entier, enfin, les deux films en entier mis bout à bout... sont un peu un immense regard plein de dérision de Lars von Trier sur lui-même, en fait. Enfin, moi, je crois que j'avais déjà parlé de ça avec toi. Il fait des blagues, notamment sur la différence énorme entre le terme antisioniste et antisémite, ce genre de choses.
C'est ce qu'il avait dit à Cannes.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je m'attendais vraiment pas à ça, et je m'attendais vraiment pas à de l'autodérision de la part de ce gars, j'avoue. Donc voilà, plutôt une bonne surprise. Désolé, je réagis au buzz 4 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Un an plus tard.
Moi, je voulais pas le voir et du coup, je te fais confiance et je vais essayer de me le procurer.
Bah, je sais pas si tu dois me faire confiance.
Bah, non, mais
moi, je te le conseille en tout cas, parce qu'apparemment, ça marche plutôt bien. Donc,
J'aime pas du tout ce gars. Bah, gars en soi, je m'en fous. Mais en tout cas, ses films, à part un vieux film qu'il a fait avec Jean-Marc Barr, dont j'ai oublié le titre.
Europa.
Donc à part ça, j'aime pas du tout. Et vu comme tu en parles, je vais
Moi j'étais vraiment.
Mais en version courte quand même. Je vais pas me taper 5 heures de leur entrée.
Je serais très curieuse de voir la version longue en fait, qui est en fait une version courte hardcore, quelque part, puisque c'est juste les deux films mis bout à bout avec quelques scènes.
Il me semblait qu'elle était
plans,
un peu plus longue avec
là, non, elle fait une heure et demie en plus.
Ah ouais.
Elle fait une heure et demie en plus.
Ouais, mais je pense que ça se. Ouais, enfin moi
ça se ressent pas.
Mes dimanches après-midi sont pas assez longs pour regarder 5 heures de Lars von Trier.
Bah la vie est trop courte peut-être pour mais enfin franchement c'est du coup la présentation en deux volumes, c'est tellement différent et il y a tellement de gros échecs sur le volume 2 qu'il y a pas dans le volume 1 que t'as pas du tout l'impression que ça fait partie d'un ensemble en fait. Enfin évidemment, c'est la même histoire etc., mais t'as l'impression qu'il y a eu un temps de latence entre les deux. Enfin c'est très bizarre, moi je suis très curieuse de voir. Et par exemple, il y a la transition entre l'actrice qui joue... Je vais peut-être arrêter là, ça fait longtemps, non? La transition entre Stacy Martin. Ouais, qui joue le personnage de Joe de Charlotte Gainsbourg jeune. La transition entre cette actrice-là et Charlotte Gainsbourg qui joue son rôle actuel est très... Waouh! Genre en trois plans, ça y est, elle s'est métamorphosée, elle a pris 10 ans, et Shia LaBeouf aussi d'ailleurs.
Il a une moustache.
Ah ouais, ouais, il a une moustache.
Ah, donc il joue bien.
Je suis totalement d'accord avec cet indicateur de valeur de cet acteur. C'est trop bien. Donc oui, il y a ça qui est assez déconcertant, par exemple dans le volume 2. Je sais pas si le montage du director's cut est mieux géré. Je sais pas si c'est complètement volontaire aussi, d'ailleurs.
Voilà. Eh ben merci beaucoup. Comment dire, pour après tous ces bons films, hein, je vais juste conclure en vous disant ce que moi j'ai regardé la dernière fois, un film que je me suis auto-conseillé donc, et qui est le légendaire Dracula Untold.
Oh putain.
On arrive dans le grand cinéma, là, dans le cinéma à Oscar, quoi, dans le Golden Globes et autres Sundance, tu vois. Et eh ben non, comment dire, c'est alors Luke Evans qui joue dans les Hobbits, enfin dans les trois Hobbits. J'oublie toujours le nom de son personnage. Qui joue donc le comte Dracula et qui est en fait pas encore un vampire, mais qui est un guerrier incroyable et tellement puissant, fort et beau. Et donc pendant le film devient un vampire. Donc il se fait vampiriser, voilà. Il se transforme, il essaie de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Ça se passe donc au Moyen-Âge. Et en même temps, en fait, c'est une espèce de comment dire, une espèce de côté pour une poignée de dollars, quoi. Le mec arrive en plein milieu d'une guerre, et puis au final, il va aller un petit peu, genre, dire, oh les gars, machin, enfin. Il va essayer d'aller voir un peu à droite à gauche, quoi, comment ça se passe. Il attend que la guerre se passe, quoi. Mais évidemment, lui aussi, il va être compris dedans et puis il va un peu mener la bataille. Il va en ressortir évidemment vainqueur. C'est tellement nul à chier, putain. Ah, c'est ignoble, mon Dieu, mais c'est affreux. Et heureusement que je l'ai pas vu en VF, quoi. C'est ridicule.
C'est là que ça peut être plus drôle.
Ah non, mais c'est, oui, justement, c'est ça aussi le désavantage de le regarder en VO, c'est que c'était pas très drôle. Je pense qu'avec un doublage de merde, oui. Et voilà, et puis bon, les effets spéciaux sont pas terribles, enfin, c'était très 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 nul. Et donc c'est là-dessus qu'on va clore cette émission sur une touche de bon cinéma. Merci à tous de nous avoir suivis. La prochaine émission est dans 2 semaines. Je remercie tout le monde autour de la table d'être venu. Merci Florian, merci Jenny, merci Thomas, merci Benjamin d'avoir pris des photos. Merci à tous, merci No Reason, donc Margot.
De rien.
Oui, je sais. Merci, attends 2 secondes, je peux pas tout faire. Merci Margot, merci Thibaut, merci Mélodie et merci Théo à la technique. On va te faire encore un petit peu bosser puisqu'on se quitte sur de la bonne humeur. Ça va mettre du soleil dans votre vie.
Avec la compagnie.
Ça fait rire. Non. Et non. On en a parlé tout à l'heure. La musique du générique de fin de The Voices, qui est peut-être le générique de fin le plus happy.
Le plus merveilleux.
De l'histoire du cinéma de cette année. On écoute ça tout de suite. La chanson s'appelle Sing a Happy Song. Donc, on est déjà dans le thème. Le groupe, c'est The OJs. On écoute ça tout de suite dans 2 semaines.
Music good for your soul. It can bring a real good.
C'était Radio Cinéma Club. À la semaine prochaine sur ZKM.